Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leurs méthodes et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire un truc de ouf. 75% d'entre vous ne sont pas encore abonnés au podcast sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast ou Spotify. Si vous appréciez ce podcast, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner via votre application d'écoute favorite. Votre abonnement aide véritablement le podcast à se développer. Et plus vous êtes nombreux, meilleurs seront les invités. Un grand merci d'avance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Fabre. Salut Sébastien.
Oui, salut Adrien.
Pour commencer, où est-ce qu'on est? Pour mettre un peu de contexte, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, Seb? Sébastien, alors, Seb, pardon. Je dis Seb, on peut dire les deux.
Tu peux dire ce que tu veux, en fait.
J'ai l'impression que tout le monde t'appelle Seb.
On est dans le showroom de Rissi, en fait. Okay. Société que j'ai intégrée il y a 3 mois. Dont j'étais administrateur déjà.
Ok, et on se trouve où? On est avenue Kléber, c'est ça?
Avenue Kléber, exactement. Ouais. C'est une société qui fait de la seconde main. Mais je pense que je suis un peu attaché à ce milieu, mais on en parlera plus tard.
Ouais, on va y venir. Deuxième question, c'est comment tu te présentes au monde, toi, aujourd'hui, quand on te demande de te présenter dans un dîner mondain ou un week-end à la campagne, hein?
Je pense que le mot qui me vient, c'est entrepreneur, même si c'est un peu la boîte fourre-tout et qu'on peut y mettre à peu près ce qu'on veut. Ouais. J'ai pas toujours été entrepreneur d'ailleurs. C'est-à-dire que je le suis devenu sur la route. Je fais un petit peu d'investissement, donc un peu investisseur aussi.
Un peu investisseur, très bien.
Mais c'est pas non plus mon cœur de métier. Et je pense que je suis pas très bon là-dedans non plus.
Ok.
Voilà.
Très bien. Parfait.
C'est la short version, ça.
C'est la short version. On va faire maintenant la longue version. on va prendre 2 heures de Sébastien. Moi, ce que j'ai envie de comprendre aujourd'hui, c'est voilà, tu viens d'où, t'as grandi où, qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre et un jour cofonder Vestiaire Collective. J'ai envie de revenir en long, large et en travers sur cette aventure. J'ai envie de revenir aussi sur la précédente aussi, avant que tu rejoignes ici Aqua Blanca. J'ai envie de comprendre aussi ce que c'est Chrissy. Voilà, quelle est la valeur ajoutée, la proposition de valeur, comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est une boîte quand même qui a quelques années. Et puis j'ai envie de comprendre aussi voilà comment tu investis, est-ce que ça te convient comme programme, ça doit.
Super.
Ouais, parfait. Allez. Let's go. Et ben on commence. T'es né où, t'as grandi où et qu'est-ce qui t'a amené à un jour cofonder Vestiaire Co?
Je suis né à Grenoble. Je suis né avec des skis aux pieds comme tous les Grenoblois. Et en fait j'ai un parcours un peu étonnant, mais en fait je suis né à Grenoble, j'étais baptisé à Marrakech et ensuite on est parti vivre en Haïti, puis au Cameroun sur la frontière tchadienne,
okay.
Puis en Guyane, et après moi je suis rentré en France, j'avais à peu près 16 ans, je suis retourné à Grenoble, voilà, mais en tout cas...
Et qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents pour voyager autant?
Mon père était... il faisait du ciment. Mais il avait surtout une passion pour la minéralogie et la paléontologie.
Okay.
Et du coup, il est assez malin, je pense, finalement, avec du recul. Il a toujours combiné les deux.
Okay.
Et s'est toujours implanté dans des régions où il pouvait absolument faire les deux. Mais du coup, ça nous a donné une chance incroyable à ma sœur et à moi, c'est-à-dire de vivre des expériences assez, assez incroyables. C'est-à-dire, au Cameroun, on était à 100 km de la première ville.
Ouais.
Donc on se levait avec les cris des animaux et on avait des couchers de soleil incroyables. Enfin, on a vécu des histoires dingues avec voilà des enfin, je me suis retrouvé avec parfois un anaconda, c'est un python d'ailleurs, pardon, dans ma climatisation. Voilà, ce genre d'anecdote
un peu exotique, unique, ouais.
Voilà, et... exactement.
Okay.
Je suis rentré en France et en fait, on est rentré. Ma mère est rentrée parce que ça commençait à être un peu dangereux. Et donc, elle a ouvert un magasin de livres d'occasion à Grenoble.
Okay.
Et ça, c'est idiot, mais c'est un déclencheur en fait. Quand on voit la quantité de produits disponibles, mais non visibles, en fait, c'est forcément, on pense à savoir comment faire vivre un peu tout ça. Voilà. Donc ça, c'était un, en tout cas un des déclencheurs chez moi.
T'avais quel âge à l'époque, toi ?
J'avais 16 ans.
D'accord.
Ouais.
Ok.
Et puis voilà, donc j'ai fait une école de commerce et puis j'avais pas.
T'as fait laquelle, toi ?
J'ai fait l'école de Grenoble.
Ouais.
J'avais pas du tout de. Enfin, je me sentais pas dans le moule. C'est avec ce que j'avais vécu préalablement, j'étais pas forcément à l'aise avec avec une structure un peu rigide. Enfin, ce que moi j'estime être rigide, pardon. mais du coup, après, j'ai passé le concours de l'université d'Oxford et je suis allé faire mes études en Angleterre. Et là, c'était un révélateur pour moi parce que. Ben parce qu'en fait, on rejoint des gens qui viennent de d'univers totalement différents, des gens passionnés. On est dans un contexte en fait de beauté permanente. En fait, c'est moi ça c'est très important dans ma vie. C'est toujours de mixer le beau et le reste. Non mais j'ai adoré. Voilà, j'ai pris beaucoup de maturité.
Oxford, c'est quoi ? L'endroit est magnifique, c'est ça ?
L'endroit incroyable. Il y a 52 collèges dans une ville. Tout est beau en fait. C'est vraiment. Donc ça a été assez important dans ma vie. Et puis ensuite, c'est horrible parce que je suis né professionnellement en même temps qu'Internet, donc ça fait de moi un vieux schnock. Mais en même temps, j'ai démarré chez Microsoft au moment où Internet démarrait aussi. Donc finalement, être dans la bonne boîte et au bon moment, ça a été aussi, je pense, une opportunité assez importante.
T'aspirais à quoi, gamin, quand t'avais 16-17 ans là, à Grenoble, c'était quoi tes rêves ?
De faire du ski et du BMX.
Ouais.
Honnêtement, j'avais très peu de maturité. J'ai redoublé ma quatrième. J'ai raté mon bac. Enfin, c'est vraiment, j'étais pas du tout intéressé par les études. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent en fait dans ce schéma-là.
Bien sûr.
Ce qui se passe aussi, c'est que mes parents étaient encore pas mal à l'étranger. J'habitais seul. Alors je sais que j'avais des oncles et des tantes pas très loin. Donc mais j'étais un peu livré à moi-même avec un cadre qui est le cadre de parents qui culpabilisent de laisser ses enfants seuls. Donc j'étais dans le confort. Je peux pas mentir là-dessus, c'est certain. Mais du coup, oui, je passais beaucoup de temps à faire. Autre chose que
étudier et faire tes devoirs. Ouais. Ok. Donc Oxford, tu rentres chez Microsoft. Tu rentres en tant que quoi chez Microsoft ?
Je rentre. Ils ouvraient une division Internet et télécom grand public.
Ok.
Et voilà. En fait, on était projeté dans un univers
qu'il fallait créer
énormément de ressources. Tout était possible. C'est-à-dire, on pouvait faire du biz dev, en même temps faire des acquisitions et en même temps modéliser économiquement des sujets grand public. Et c'est aussi c'est très important dans mon expérience d'après parce que finalement l'internet grand public et l'apport de la technologie dans les usages du quotidien, en fait, c'est vraiment là aussi que je l'ai ressenti. Mais j'ai adoré l'équipe internationale, je voyageais tout le temps, je suis resté 10 ans chez Microsoft et je suis parti avec beaucoup de peine, sincèrement, mais je suis parti pour monter Vestiaire.
D'accord.
Co-fonder Vestiaire.
Ok. Et c'est ton premier job, Microsoft ?
Alors, mon premier job, oui, parce que, au préalable, j'avais, j'ai fait des missions en CDD pour une boîte qui faisait d'ailleurs qui s'est fait racheter par Vivendi mais qui faisait des petites annonces. C'est okay. L'ancêtre du l'ancêtre du classified, voilà, qui faisait des petites annonces papier en fait, de journaux gratuits qu'on distribuait dans les boîtes aux lettres. Là encore très formateur parce que c'est un business considérable en fait. Voilà. Qui s'appelait, je ne me souviens plus, Comareg, je crois.
Comareg, ok, très bien. Et avec le recul, qu'est-ce que t'apprends chez Microsoft ? Et si c'était à refaire, est-ce que tu resterais aussi longtemps chez Microsoft ? Parce que 10 ans, c'est quand même un gros morceau de vie, quand même. Tu sors de là, t'as une trentaine d'années, quoi, 30 et quelques. Quand vous avez cofondé,
38.
Ouais. Ah ouais, tu sors, t'as 38 ans, la vache, ouais. Donc t'as commencé tard, en fait.
Oui, bah, j'ai fait un MBA.
Ok, t'es arrivé dans la vie active à 27-28 ans. Ouais. Ok, intéressant.
Tu cumules les redoublements, puis ensuite tu fais des études un peu longues.
T'avais pas envie d'y aller, quoi?
Non, j'étais bien.
T'es curieux, t'aimais bien les études. D'accord, donc avec le recul, ouais, t'arrives à 38 ans, si c'était à refaire, de rester aussi longtemps avant d'entreprendre, parce que t'avais quand même la foi de l'entrepreneur, l'envie de liberté, etc. Alors, tu vas me dire que chez Microsoft, ils te donnaient beaucoup de liberté, et que c'était de l'intra-entrepreneuriat, peut-être, mais...
En fait, tu sais, tu te sens bien ou pas dans une boîte. Moi, je sais que je pourrais retourner un jour dans une boîte avec une structure. Je pense que c'est pas pour ça que je te disais au départ, entrepreneur, pour moi, ça veut pas dire grand chose, en fait. L'idée, c'est de construire. C'est de
modéliser.
Ouais. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et tu vois, me concernant, ce qui m'intéresse, c'est de contribuer à changer la culture des industries par l'usage. C'est le consommateur qui m'intéresse, moi, vraiment. C'est ça le sujet pour moi. Je trouve que c'est intéressant, par exemple, sur la seconde main, d'arriver, non pas précurseur, parce que eBay le faisait très très bien avant, mais de prendre un vertical d'eBay, de le faire très très bien, de le mettre au centre de l'industrie, et puis petit à petit, en fait, de construire quelque chose de solide qui crée une dynamique, en fait, une vague de fond, enfin une lame de fond, et on voit aujourd'hui la seconde main, je pense que c'est un usage assez
intégré,
courant,
ouais, courant,
intégré,
ouais,
dans les foyers, etc. Ouais.
Carrément. Donc on se lance sur Vestirco, là, c'est ça, on.
Si tu veux, ouais, pardon, j'ai fait le bridge.
Non, très bien. Donc là, tu sors de Microsoft, donc tu pars de Microsoft pour fonder Vestirco. C'est quoi la genèse de Vestirco, en sachant que vous êtes 6 cofondateurs? Comment tout ça s'imbrique, ouais.
Pour moi, tu as deux choses. Tu as l'acte fondateur, c'est en gros Sophie Hersant et moi, on dîne ensemble un soir avec un entourage et voilà, on réfléchit, on a des idées. Sophie, venant de la mode, elle avait des réflexes assez pertinents, enfin, dans la discussion. Donc ça, c'est un peu la genèse. Ensuite, il y a l'envie d'y aller, et de se dire qu'il y a une modélisation intéressante à faire. On a commencé à travailler un peu par itération.
Toi, t'avais quitté Microsoft déjà ou non? J'étais en parallèle. Ouais.
Alors non, j'avais pas encore quitté Microsoft. Forcément, on prend pas trop de risques.
Bien sûr.
Au début, même si j'ai vendu mon appartement pour lancer la boîte. J'étais
audacieux
encore
quand même. Ouais.
Et puis, du coup, après, il y a le groupe, il y a les cofondateurs.
Comment vous les avez rencontrés, les autres cofondateurs?
Sophie était proche de ma sœur. Ouais. Enrique, c'était mon meilleur ami. Christian et Alex m'ont été présentés par un fonds, un type qui s'appelle Thomas Delalande, qui est vraiment un type génial. Et Fanny, en fait, je bossais avec son frère chez Microsoft. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment ça la dynamique, et sincèrement, je pense que si on avait dû passer par un cabinet de chasse pour construire cette équipe, aucun d'entre nous n'aurait fonctionné, en fait, sincèrement. Et ce que j'aime là, c'est la dynamique de l'équipe, en fait, le groupe fonctionnait. Mmh. Et donc, du coup, on est capable de défoncer tous les murs et d'avancer. C'est vraiment ça qui était assez incroyable, en fait. Mmh. Et on aurait eu rencontré encore 4 autres personnes. On aurait aussi avancé 4 autres personnes. Après, la cap table devenait un peu compliquée.
Ça veut dire quoi, la cap table, pour ceux qui ne connaissent pas?
Bah, ça veut dire la répartition du capital. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi être cohérent là-dessus.
Mmh. Et vous êtes partis à égalité, tous?
Plus ou moins, Sophie et moi, on en avait un petit peu plus pour être transparent. Mmh. Globalement, ça s'est pas mal équilibré. Ouais. Mmh. Ouais.
Et en quoi vous étiez complémentaires tous? Parce que vous étiez des profils très différents.
Oui, bah, Christian et Alex, c'est la tech. Ils avaient une agence à Saint-Maur. RL Agency.
Ouais. Mais ils étaient, c'était des très bons.
Ouais. Alex,
ils étaient très très chauds.
Alex est un génie, en fait.
Ok.
Alex est un génie, et Christian, lui, c'est je suis très admiratif parce que c'est quelqu'un qui est dans l'exécution absolue. C'est il décortique. Et en fait, il exécute avec une facilité, moi, qui me déconcerte. Moi, je suis plus dans l'intuition et la modélisation, là, c'est un job un peu facile dans la boîte. Sophie et Fanny venaient de la mode.
Elle faisait quoi exactement auparavant?
Sophie?
Ouais, Sophie et Fanny.
Sophie, elle était chez Chloé Et elle était, faut tu me poses une colle là, je crois qu'elle était, je ne sais plus.
Chef de produit ou buyer ou...
Non, je crois qu'elle était vraiment à la direction artistique.
D'accord, je ne me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai interviewée, c'est terrible.
Mais elle avait un sens de l'assemblage, du style qui me...
Un sens de la mode, ouais.
Ouais, vraiment, l'œil, tu vois. Et je pense que ça, c'était important dans Vestiaire. Et Fanny, en fait, c'est pour moi, c'est Sophie avec la même capacité que Christian. C'est quelqu'un qui a de l'intuition et qui déroule. Voilà. Et donc, tu sais, quand tu crées une boîte et que t'es bien content d'avoir ton petit PowerPoint, quand il faut le mettre dans le contexte de la vraie vie, il faut quelqu'un comme Fanny. Voilà. Mais donc voilà, je pense qu'on était tous assez clairs sur le job qu'on avait à faire dans la boîte. Il y avait une communication qui était très fluide. Ça, je pense que c'est un peu le secret aussi.
Et comment vous avez mis en place cette communication aussi fluide? Vous étiez dans un appartement où vous travailliez tous à la même table? Comment ça fonctionnait?
On a tous été dans un appartement les uns après les autres. Je me souviens qu'on faisait il y avait une espèce de roadmap de les trois premiers mois c'est chez toi, ensuite voilà. Et après on a tous terminé chez Fanny parce que son appart était plus grand. Merci. Mais oui, c'est ça. Ça a été assez incroyable en fait, ce début de Vestiaire. Je pense que quand tu te remets dans le contexte de la seconde main en 2008 à l'époque, quand on commençait à travailler dessus.
C'est vrai qu'on est dans un contexte économique pourri à l'époque, hein. Mais bon, c'est secondaire.
Pour nous, ça a été secondaire. Ouais. Mmh. Ouais. En fait, c'était pas tellement le contexte économique, c'était le contexte de, si tu veux, moi, je me souviens avoir vu, on a très vite senti qu'on avait besoin d'être financé. Et je me suis retrouvé à avoir le même fonds 17 fois, en fait, pour avoir un nom à la fin, parce que finalement, je pense qu'on était un tout petit peu en avance de phase. Et que c'était très difficile de convaincre en fait des investisseurs qui étaient loin de cette industrie d'investir dans la seconde main, parce que ça sentait la poussière, tu vois, ça sentait vraiment le
et donc la vie boutique de vintage pour avoir
voilà, et puis j'ai eu plein de j'ai une liste des remarques la mode c'est ma femme, enfin tu vois, tous ces sujets qui sont vraiment je trouve qu'aujourd'hui, ils font plus de sens, mais on était assez précurseurs. Ouais.
D'accord. Ouais. En 2008, le contexte de la mode, c'est quoi? C'est l'explosion des SMCP, l'explosion de la fast fashion aussi. On consomme comme des fous, non? Un peu dans une espèce d'inconscience. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille, vous, à l'époque? Parce que aujourd'hui, ça paraît évident et c'est devenu un vrai business, un vrai gros business parce qu'il y a eu des précédents, etc. Et on voit bien qu'il y a plein de marques qui vont à fond la caisse parce que et elles le développent. Récemment, je parlais avec quelqu'un chez Bash qui me disait que ça devenait un vrai business, quoi, la seconde main et qui se l'accaparait, quoi. À l'époque, il faut avoir le nez fin quand même de se lancer là-dedans et de faire, tu vends ton appart, quoi. C'est chaud.
J'ai jamais été très... tu vois, moi, je pense qu'une part de ma personnalité, c'est... J'ai pas de crainte sur ces sujets-là. C'est-à-dire, je sais pas comment le dire de manière un peu modeste. Je suis pas limité. Parfois, je me mets dans des situations un peu risquées financièrement parce que j'ai des convictions, en fait. Je trouve que... Je trouve que c'est ça qui m'anime vraiment. Et pour te remettre un peu dans le contexte, encore une fois, c'est je crois qu'aujourd'hui tout le monde parle justement de la sustainability, etc., etc. Je pense qu'à l'époque, moi j'étais incapable de le matérialiser. Après, on est forcément influencé. Je sais que dans les pays dans lesquels j'ai vécu, on a toujours ma sœur et moi été habitués à faire ce qu'on avait autour de nous. Et donc tu vois, il y a cette notion de consommer. De manière un peu plus smart en fait et sans que ce soit forcément dans ton éducation, mais c'est là je sais qu'on avait tous des convictions assez alignées quand on a lancé Vestiaire. Moi j'étais à l'époque incapable de matérialiser ça en tout cas, mais en tout cas c'est un des vrais drivers de la boîte. C'est Et encore une fois, moi, j'en suis parti il y a 5 ans, donc j'ai l'impression que ça se continue un peu. Mais il y a une dimension économique, sociale aussi. Je pense que, par exemple, en mettant nos entrepôts à Tourcoing, il y avait aussi une dimension locale où on avait envie de contribuer localement à impacter. Je t'en parlerai si tu veux un petit peu plus tard, mais moi, j'ai pas ce sens de la mode. Ça, c'est pas une industrie qui m'intéresse beaucoup, pour être honnête. Mais parce que j'ai pas le... Tu vois, j'adore la créativité. Je suis assez admiratif de ça. C'est-à-dire, j'ai pas cet esprit créatif. Enfin, donc du coup, ça. Voilà. Après, ce que je me dis toujours, c'est quand t'as une collection, je trouve que ce qui m'intéresse, c'est la culture derrière ça. Tu vois, c'est de d'où ça vient, et à la fin de la dimension communautaire. Tu vois, je pense que c'est un peu les deux. Pour moi, c'est un peu les deux leviers de d'un produit ou d'une marque qui fonctionne, c'est se dire est-ce que tout d'un coup ça a regroupé une communauté qui vient de manière organique vers cette marque, ou est-ce que il y a une vraie culture du produit, etc. Le reste, pour moi, c'est un peu bullshit. Hein. Mais encore une fois, je viens pas de cette industrie, je la comprends pas toujours, pour être honnête. J'ai l'impression, je sais pas si t'as vu ce film Mélancolia de Lars von Trier, où ouais. t'as une planète qui arrive, qui va percuter la Terre, et tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde l'attend, et personne ne change, finalement, on continue à faire la fête, etc. Et en fait, pour moi, c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'on voit que, bon, voilà, le modèle fonctionne pas toujours. Trop. Mais que surtout il faut rien changer, en fait, parce que je trouve que c'est aussi un peu facile, et je sais que je vais pas me faire des copains, mais c'est un peu facile de tout mettre sur la fast fashion. C'est-à-dire que je trouve que on a point du doigt un coupable. Après, je pense que c'est vrai pour enfin c'est cette logique du modèle. Mais parce que moi, je viens pas de là, encore une fois, et je me dis, mais est-ce qu'on lance une collection en ayant en tête que 50% des produits qu'on crée finalement vont être vendus à la casse? Moi j'ai un problème avec ça, en fait. J'arrive pas à comprendre ça, en fait. Je trouve qu'on devrait être responsable finalement de ce qu'on produit dans le temps.
Bien sûr.
Et donc si on vend pas, globalement on devrait produire moins l'année d'après. Enfin, tu vois, j'ai des trucs un peu je sais que c'est des réflexes un peu idiots, et je sais que ça vient un peu d'un Excel sheet, tout ça, mais tu vois, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Voilà.
Bien
sûr. Donc voilà, donc Vestiaire, pour moi, c'est ça s'inscrit là-dedans, en fait, dans cette cohérence.
On va en parler à LVMH et à Kering.
Si tu veux.
Non, mais t'as raison. Je pense qu'on est tous d'accord, et je suis d'accord avec toi sur le fait que, ben, c'est vrai que ça change pas assez vite, et qu'on va tous dans le mur, là, et puis on continue, on change rien, et dans beaucoup de sujets, d'ailleurs, dans la société. Pour revenir, d'ailleurs, ça te saoule de parler de Vestiaire Co ou pas, ou c'est toujours un plaisir? Tu vois, récemment, je parlais avec Sarah Andelman de Colette. Tu vois, je pense que tout le monde lui parle de Colette tous les jours. Ça doit la gonfler au bout d'un moment. Je dis, c'est bon, maintenant, on est passé à autre chose. Et ça te gonfle, toi, ou pas?
Non, pas du tout. C'est 10 ans de ma vie. Enfin, je l'ai cofondé, c'est mes tripes. Hein, donc, et ça a été une aventure extraordinaire du début à la fin. Donc, j'ai pas de rancœur, et puis je trouve que l'histoire qui s'écrit aujourd'hui est très belle aussi. Donc, je suis très fier, en fait, d'avoir, en tout cas, initié la dynamique.
Et puis
10 ans, c'est, encore une fois, c'est long dans une vie. Dans une vie professionnelle, surtout. Mais non, c'est cette fierté, on en a déjà parlé, mais d'avoir mis, en tout cas, de contribuer à, tu vois, changer un peu la culture et l'esprit, voilà. Mais on a des anecdotes incroyables. Tu vois, on fera le lien avec Récy aussi, mais l'équipe de Récy, je les ai rencontrés en 2014 dans mon bureau de Vestiaire. Le matin même, je voyais les fondateurs de Vinted dans mon bureau avec un motel complètement différent. Mais donc, tu vois, enfin voilà, j'ai des anecdotes dans tous les sens. C'était une aventure incroyable, et je pense qu'aussi ça fait partie. Tu vois, moi je me définis aussi comme un entrepreneur de la tech du début. C'est tu vois la première génération d'entrepreneurs. Et je pense que le monde a changé. Et tu vois, on fera lien avec Agua Blanca, j'imagine. Mais Vestiaire, on s'est retrouvé avec du cash assez vite, en fait, finalement, d'abord, et parce que Thierry Gillier, Zadig et Voltaire a vraiment cru au truc avant même que ça existe, et donc il nous a amorcé la pompe. Et puis on a très vite ensuite enchaîné avec avec des fonds, hein, et donc on s'est retrouvé, je crois, en année 3 avec 20 millions ou 19 millions sur le compte. Et ça, en fait, quand on est dans le consumer, je pense que c'est très important, parce que on a besoin de tester les choses. On a besoin de mettre des ressources. En fait, c'est pas des modèles de souscription où on investit du marketing et puis tout d'un coup, on regarde les cohortes et on voit qu'il y a des nouveaux utilisateurs, on les convertit en repeaters, etc., etc. Et je dis pas que c'est facile, hein. C'est très difficile aujourd'hui, spécifiquement parce qu'il y a du monde, les coûts d'acquisition sont élevés, etc. C'est pas un modèle en SaaS non plus où on est dans le B2B. Le consumer, en fait, faut faire changer les usages. Et donc, forcément, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut être juste à chaque fois. Et quand on est dans une industrie comme la mode, eh ben, il faut être juste. C'est-à-dire, est-ce que t'es tout d'un coup une place de marché où, ton job à toi, c'est d'avoir le plus de produits possible sur la plateforme. Et donc, du coup, après, c'est la technologie qui prend le pas. C'est-à-dire que plus j'ai de produits, plus je suis indexé, etc. Je résume un peu facilement, mais et à la fin, je fais le plus de ventes. Ou est-ce que tout d'un coup, j'ai une justesse, en fait, avec un œil qui fait que tout d'un coup, les gens s'accrochent à une marque, voilà, et moins à une plateforme et moins à
un service, ouais.
Un service, voilà. Et donc tous ces angles-là, il faut y réfléchir assez vite parce que et ça c'est une de mes fiertés avec Vestiaire, vraiment ça n'a jamais pivoté, jamais en fait, parce que on a eu le bon modèle dès le départ. Alors évidemment il y a beaucoup de hasard, mais tu vois, prendre la brique communautaire, l'intermédiation pour rassurer les acheteurs et les vendeurs, je pense que c'était les deux.
Ça vous l'aviez dès le départ, ouais.
Ouais. Voilà. Puis bon, il y a eu plein de on a eu des éléments de croissance, encore une fois, et je te le disais, je crois que le monde de l'investissement avait changé. C'est aujourd'hui, mais à l'époque de Vestiaire, j'avais un investisseur, il voulait personne d'autre sur le tour, où tu avais peut-être tes existants qui reparticipaient un petit peu, et puis voilà, aujourd'hui t'as 80 mecs sur une cap table pour faire un tour en seed, voilà. Je dis pas que c'est moins bien, etc., mais c'est très différent. Et tu vois, ça, moi, par exemple, j'ai pas su l'anticiper. C'est-à-dire que j'étais très confiant dans mes chaussures d'entrepreneur cofondateur d'une boîte qui a une croissance assez phénoménale. Et je pensais pas que j'aurais devrais à nouveau prendre ma petite mallette et faire le tour des popotes pour aller chercher quelques milliers d'euros par-ci par-là, voilà, pour financer des boîtes. Et parce que aussi les investisseurs sont tournés vers d'autres choses, enfin le consumer, ça c'est vraiment quelque chose qui est je pense qui est pas au centre aujourd'hui des intérêts de la plupart des investisseurs.
Qu'est-ce qui est au centre?
SaaS, B2B, IA, enfin non.
Il y a des trucs plus sexy, ouais.
Ça me fait marrer parce que je reçois beaucoup de decks. Aujourd'hui, je continue à avoir pas mal de jeunes entrepreneurs qui m'envoient des... Et en fait, je crois que en quelques mois, je pense que 80% des decks figurent, dans lequel figure le mot intelligence artificielle. Alors, je pense que c'est le mot...
c'est la trend, ouais.
C'est la trend. Et ça, c'est un peu... voilà, mais parce que... Parce que je pense que je crois que le monde de l'investissement est assez moutonnier aussi, pour être honnête, et c'est pas négatif, hein. Je comprends très bien que l'œil se porte sur autre chose. Je crois aussi qu'il y a eu beaucoup d'investissements en consumer, des modèles qui n'ont pas fait leurs preuves forcément, et que du coup on a envie de se tourner vers autre chose. Voilà. Mais bon, voilà. Moi, j'ai traversé ces vagues-là et c'est marrant d'avoir vécu le monde d'avant aussi. Voilà.
Pour revenir sur Vestiaire, moi, j'aimerais bien comprendre les facteurs clés de succès, les différents milestones, les hacks, si on peut parler de hacks. Qu'est-ce qui fait que vous avez avancé plus vite que les autres? Parce qu'il y avait du monde quand même sur le marché à l'époque. Vous n'étiez pas les seuls à vous lancer sur le seconde main, si?
Alors, ce qui est assez drôle, c'est que t'as une boîte qui s'appelle Vite Dressing, qui a lancé, je crois, une semaine avant ou une semaine après nous, sans que ni l'un ni l'autre ne sachions que
ça se lançait.
Que ça se lançait, en fait. Du coup, ça, c'était assez drôle. Ils n'ont malheureusement pas eu la même fin, n'ont pas eu une fin très heureuse, je pense.
D'ailleurs, ça s'appelait Vestiaire de copine?
Oui, ça s'appelait, c'était un nom de code.
D'accord.
Et puis, bon voilà, on commençait déjà à parler un peu au groupe, aux stratégiques, aux médias, etc. Je sais que c'est un mot qui plaisait beaucoup à une rédac chef, et donc on l'a gardé comme ça. Après on a pas mal itéré sur le nom parce que tu vois, tu me parlais des drivers. C'est une boîte qui était internationale très vite. Mmh. C'est-à-dire, même si tu démarres en France et tu dis c'est franco-français, ce qui était vrai à l'époque, c'est que un produit qui était à la mode en France ou en Italie allait devenir dans un autre pays, etc. Donc tu avais une dynamique où le même produit en fait recréait de la valeur dans un autre pays quelques temps après, alors qu'aujourd'hui, enfin, le même produit est visible tout de suite partout, mmh, et c'est global, finalement la même. Et donc ça, c'est très très différent parce que un des drivers, c'était évidemment l'international pour Vestiaire, et finalement le fait d'avoir le même produit qui circulait plusieurs fois.
Ouais, c'est vachement bien. Ouais.
Et donc ça, c'est évidemment c'est du pain béni pour toi quand tu sais que c'est des industries qui sont drivées par le supply, par l'offre.
Ouais. Très bien. Facteur clé de succès. Enfin, déjà, c'est quoi le modèle de Vestiaire Co? C'est con. On l'a pas abordé encore. Vous êtes intermédiaire, donc vous êtes une plateforme qui met en connexion l'offre et la demande, quoi.
Oui, c'est ça. C'est une plateforme intermédiaire. Encore une fois, je te parle de mon époque. Je pense que ça n'a pas changé. Je suis même sûr que ça n'a pas changé.
C'est sûr.
Mais oui, c'est une plateforme intermédiaire. C'est-à-dire que le produit reste dans le placard de l'utilisatrice, de la vendeuse, tant qu'il n'est pas vendu. Et une fois qu'il est vendu, il est expédié chez nous. Chez Vestiaire. C'est plus chez moi.
Ouais.
Et contrôler, authentifier, ensuite réexpédier à l'acheteuse.
Ok. Ouais. Et vous prenez une com dessus.
Exactement, ouais.
Et vous preniez combien à l'époque?
Je sais même plus tellement, je crois, entre 20 et 25, il me semble.
D'accord. Ok. Ouais. Très bien. Et donc, c'est ce genre de business, t'es obligé de faire beaucoup de volume pour gagner ta vie, hein, c'est ça? Hein,
pas tellement.
Ok. Vous étiez rentable assez rapidement?
En fait, être rentable, pour moi, ça veut pas dire grand chose. Je trouve que, est-ce que c'est la boîte qui est rentable ou est-ce que c'est ton modèle qui est rentable? C'est-à-dire, tu vois, je pense que nous, on générait à l'époque de la profitabilité par client, en fait. C'est à un moment donné, notre job à nous, c'était de convertir un acheteur en acheteur récurrent, en fait. Et finalement, même si t'étais pas profitable à la première commande, tu l'étais sur les commandes d'après. Et donc, c'est cette lifetime value, en fait, qui fait que, à la fin, un client génère beaucoup de profitabilité. Voilà. Et je me souviens qu'à l'époque, on s'était mis dans les decks de levée. T'avais, je crois qu'un gros pays était profitable en 3 ans et un petit pays en 2 ans. Voilà.
Voilà. Ok.
Mais c'est organiquement des boîtes qui ont besoin évidemment de se développer beaucoup. Et quand tu lances l'Asie, tu lances l'Asie. Enfin, tu peux pas y aller en bricolant avec.
Donc les milestones. Alors, facteur clé de succès. Tu veux pas m'y répondre?
Non, mais c'est communauté. Définitivement ça. C'est avoir les bons produits très vite en ligne. Et puis l'international. Ouais, je pense que c'est un peu ça.
Il y a pas de secret.
Il y a pas de secret.
Et les grands.
Et la bonne équipe. Voilà,
et la bonne
ça,
équipe.
C'est vraiment ça, tu vois.
Et là, on enfonce des portes ouvertes quand même.
Oui, parce que tu vois, ce que je te dis de plus, et d'être bien financé.
Voilà. D'être bien financé. Moi, j'aime bien. Si t'écoutes le podcast, j'aime bien revenir sur les milestones, les grands moments, parce que 10 ans, en 10 ans, il s'est passé quoi entre le moment où vous tapez dans la main tous les 6 et le moment où toi tu sors de Vestiaire Co. Il y a 5 ans maintenant, tu disais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les grands succès? Tu me disais tout à l'heure en off qu'à un moment donné, tu étais aux États-Unis dans le Meatpack District et que c'était le rêve américain, quoi. Il s'est passé quand même 2-3 trucs.
Non, écoute, je pense que un des gros succès de Vestiaire, c'était l'équipe. C'est à se dire que on construisait une marque vraiment, et que, enfin, je sais pas le nombre de CV qu'on recevait par jour à l'époque, c'était phénoménal. Il y avait une adhésion à l'équipe, qui était l'équipe fondatrice, qui était assez dingue. Les gens se sentaient très bien dans cette boîte. Moi tu vois, j'ai une culture où j'ai pas regardé un CV jusqu'à la 100e personne, et je sais que c'est complètement idiot, il y a pas de règles, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de passer du temps avec les gens. Et donc, je voyais tout le monde dans la boîte. Et du coup, ça, je pense que ça crée aussi une envie. C'est-à-dire, l'équipe a probablement un profil un peu différent, apprend sur le... dans l'organisation, mais du coup apprend plus vite ou voilà, je me suis trompé plein de fois, hein, pas se mentir, mais non l'équipe a été incroyable très très vite, d'ouvrir tes premiers bureaux, d'être dans une logique où t'as des fonds emblématiques qui viennent frapper à ta porte, que tu te retrouves avec plusieurs term sheets sur la table, voilà, et ça nous a pas empêché à un moment donné d'être à 3 semaines de plus avoir de cash, voilà, mais tu vois, toi, toutes ces étapes-là, on les a vécues, enfin, on était pris dans cette espèce de dynamique, en fait, la boîte faisait tellement de croissance, c'était assez phénoménal, ouais. Mais non, tu vois, les milestones, c'est vraiment de suivre la communauté et tout d'un coup de regarder que bah les US, tu commences à avoir beaucoup de transactions aux États-Unis, tu y es pas encore et donc du coup tu sais que tu dois y aller. Moi j'ai passé mon temps à essayer de, au début j'avais pas trop de problème à aligner mes investisseurs, après j'ai eu du mal, tu vois, quand tu lances les États-Unis, c'est vrai qu'on était dans une culture où dans laquelle en fait on disait bah fais bien la France, puis ensuite fais bien l'Angleterre, sauf que enfin, finalement, la mode est assez, tu vois, est assez globale tout de suite. Et donc, du coup, ça marchait pas. T'avais pas les acheteurs et les vendeurs dans le même pays. Et ça, faut bien le comprendre. T'as des pays de supply et des pays de demande. Donc, en fait, bien comprendre ça et te dire, OK, où est-ce que je mets en marketing seller? Où est-ce que je mets en marketing acheteur? Dans quel pays? Et est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à convertir mes sellers en acheteurs à un moment donné? Est-ce que ça me coûte pas moins cher, plutôt que d'essayer de recruter des acheteurs directement tout de suite? Tu vois, tous ces sujets-là, c'est des sujets assez assez clés. Et donc, tu vois, d'avoir construit très vite le business avec des analystes, le business en cohorte, justement, pour bien comprendre les usages, ça a été clé pour moi. Donc, on était très bien accompagnés. On avait une boîte qui s'appelait Clipperton qui nous accompagnait sur ces sujets et qui nous a mis la data vraiment au centre du modèle très vite, hein, d'ailleurs, même un peu avant les autres. Je revois mes dashboards de l'époque parfois. C'est un peu pathétique aujourd'hui, mais honnêtement, tu sais, j'ai l'impression, je sais pas si tu te souviens, il y avait des rétroprojecteurs à l'époque, tu sais,
oui, avec des
transparents.
Ah, voilà. Oh, t'as vécu ça chez...
Non, je l'ai vécu chez Microsoft. Je l'ai pas vécu chez Vestia.
Ok, très bien. Il y a pas eu de moment particulier d'accélération. C'était de l'accélération et du sprint tout le temps.
Oui, exactement.
Ouais.
Attends, je suis vieux maintenant, j'ai 53 ans, faut que j'essaye de réfléchir un peu en arrière là. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi j'ai beaucoup préservé mes cofondateurs, en fait, des moments un peu difficiles. J'ai vécu moi.
Toi, t'étais le CEO. Hein.
J'étais le CEO, ouais, le chairman de la boîte, et j'ai absorbé beaucoup de trucs, en fait. Je suis pas le communicant de la boîte, en fait. Si tu veux, même, j'ai l'impression d'être dans une séance de psy un peu, mais tu vois, ma nature profonde, moi, c'est, je suis un peu sauvage. Moi, j'ai une maison dans le Vercors, j'ai pas de voisins. C'est ça qui me plaît, en fait, au milieu de la nature. Je suis un solitaire par nature, en fait. Et donc, la dynamique d'équipe, elle doit être assez rassurante pour moi. Et je sais plus pourquoi je te disais ça d'ailleurs. Je fais plus le lien avec la question.
Non, mais en tout cas, tu disais que tu protégeais vachement le reste de l'équipe.
Oui, parce que effectivement, quand tu te retrouves qu'il y a plus de cash dans la boîte.
C'est quoi les moments les plus difficiles, ouais, quand...
Bah, ça, c'est ça, un investisseur. Cash, oui, parce que tu vois que tu fais de la croix. T'es tellement, et tu vois, ça a été vrai dans mes histoires d'après. C'est à un moment donné, je suis tellement passionné et convaincu par ce que je fais que à aucun moment je vais m'imaginer que ça peut
foirer.
Ça peut foirer. Et donc, parfois, ne pas réussir à convaincre quelqu'un, pour moi, c'est un truc. Voilà. Et donc, quand tu vois ta dynamique, que tu sais que ça marche, que t'as identifié ce qui fait que ça fonctionne, toi tu le palpes au quotidien, en fait, tu vois cette vibration qui commence à tu et donc que t'as finalement, tu vois, on s'est retrouvé, je me souviens, ça c'est la série C de Vestiaire avec quelqu'un qui a shooté une term sheet magnifique, etc., qui s'est rétracté un mois avant d'avoir le cash, voilà, et après bon, voilà, petite histoire derrière, ils ont frappé à la porte et on leur a dit non, mais toi, c'est ce genre de frayeur où tu dis OK, j'ai un cash burn mensuel, OK, voilà, j'ai 150 personnes dans la boîte. qu'est-ce qui se passe, tu vois. Moi j'étais pas armé, tout ça, j'étais pas armé à faire des levées de fonds, j'étais pas armé, non pas que ça m'angoissait, mais j'ai pas appris tout ça, hein. Donc j'ai appris avec Vestiaire, voilà. Okay. Il y a eu des moments de stress, des moments, j'ai pas eu de moments de doute, et puis tu vois aussi, je pense que la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui d'une grille de lecture qui est enfin comme un Excel sheet, quoi, c'est-à-dire on voudrait mettre une boîte dans une grille de lecture ou un entrepreneur avec un mindset, je trouve que ce formatage là n'est pas vrai, c'est pas parce que tout d'un coup au mois de février tu fais moins de croissance que forcément la boîte
il y a cette
construction, encore une fois, des usages dans le consumer, c'est à mon sens assez particulier, hein. Il faut accepter, en fait, faut accepter que ce soit pas écrit mathématiquement, etc., etc. Parfois c'est
pas grave, non, c'est les Italiens, non. on est dans le showroom de Ricci, et c'est quand même un endroit où vous recevez des clients ici de temps en temps, hein. C'est le showroom VIP, non, c'est ça, c'est où c'est la boutique,
Oui, alors moi la notion de VIP, mais c'est un showroom, c'est un vrai showroom avec des pièces qui sont, on en reparlera, mais ouais. Je suis tellement heureux d'être dans cette boîte, c'est
trop bien. Pour revenir sur Vestiaire, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous partez? Il y en a quatre d'entre vous qui quittaient le navire. Est-ce qu'on peut revenir sur ce passage-là?
Bah oui.
Bah ouais.
Donc je vais pas parler au nom des autres, mais globalement, la boîte a besoin de se structurer un peu. On recrute, pour structurer la boîte. Après, il faut être à l'aise avec soi-même, toi, faut se regarder dans le miroir, et je sais qu'à un moment donné, c'est est-ce que la boîte continue à te ressembler, est-ce que toi tu continues à être heureux dans l'organisation de la boîte, etc., etc. Moi je pense que ces questions-là se sont posées pour Christian, Alex, toi, typiquement, qui ont développé des business incroyables derrière, hein. Franchement, Christian il a cofondé Ariany, qui est la blockchain, qui est une techno dingue, avec Alex, et il a cofondé Omi derrière, qui est dans l'alimentaire, qui est aussi assez successful, voilà. Donc voilà, en fait, c'est vraiment à quelle phase de vie tu appartiens. Il faut être honnête, il faut avoir beaucoup de maturité, hein, tu sais. Moi je peux parler de mon départ aussi si tu veux, mais effectivement quand t'as deux investisseurs qui t'appellent et qui disent ah, ce serait bien qu'on se voit, tu sais que ça va sentir le roussier un peu. Globalement, je m'y étais un peu préparé, pour être honnête. Moi je m'amusais plus tellement, mais pour ces raisons-là, c'est-à-dire que moi j'appartiens, encore une fois, je crois que tu as utilisé le bon mot, je suis un bâtisseur, en fait, c'est ça qui m'amuse, et j'aime les situations complexes du début parce que tu sais voir les premières vibrations, en fait, c'est tellement stimulant, en fait, moi c'est ça qui m'amuse, voilà. Après je gérer une boîte avec d'autres enjeux, hein, je dis pas que c'est même quasiment pas peut-être plus difficile aujourd'hui, mais c'est fait pour quelqu'un d'autre, voilà. Donc voilà, mais moi je suis sorti de manière élégante, hein, donc je regarde toujours Vestiaire avec beaucoup d'amour, et
Et quand ça se passe concrètement, c'est que tu pars, on te demande de partir de ton poste de CEO, c'est ça?
Oui, bon, ça se fait de manière un peu plus fine.
moins frontale.
Non, bah, écoute, oui, c'est-à-dire qu'en fait, on voit que la boîte est dans une dimension différente, et on te dit que potentiellement, on va commencer à regarder d'autres profils pour accompagner cette boîte. Est-ce que tu vois, on m'a pas foutu dehors, hein, honnêtement, on m'a plutôt demandé ce que je voyais pour la suite, et j'étais très honnête. Moi, j'allais avoir un petit garçon, et puis on en parlera peut-être, mais j'avais appris quelques semaines avant que j'avais un cancer, et du coup, forcément, même si je l'ai, encore une fois, je l'ai pas vécu comme une chose de difficile parce que j'ai eu de la chance, mais forcément, ton attention est un peu ailleurs, et tu te dis que tu vas avoir besoin d'un peu de temps pour toi, et voilà. Donc voilà, non, honnêtement, cette transition s'est faite. Pas dans la douleur. En revanche, je suis pas resté de chairman très longtemps derrière. On m'avait demandé de rester en accompagnement pendant quelques temps, mais là, pour le coup, c'est un job qui est très ingrat, parce que soit t'es le T'es le fondateur un peu pépère, bedonnant, et tu te mets autour de la table et tu touches tes... Toi, et tout va bien, soit enfin c'était pas mon, et pardon parce que je mets encore une fois je fais des clichés terribles, mais je sais bien que c'est pas comme ça que se passe dans la veuverie, mais en tout cas dans mon cas j'étais assis entre deux chaises en fait. Je me sentais pas, je savais pas où je devais mettre le curseur sur mon intervention en fait au board. Voilà, et donc j'étais pas à l'aise là-dessus, et je pense que mon successeur Max, qui est honnêtement un type assez brillant, je pense qu'il était plus à l'aise que je sois pas là non plus, et moi je me mets dans ses baskets, j'étais plus à l'aise, c'est pas lui, j'avais pas le fondateur dans les pattes, tu sais, voilà. Donc non, mais voilà, faut accepter ces phases de vie là.
Et t'es sorti avec des sous ou?
Bien sûr.
Ouais, et t'as toujours des parts dans Vassirfo ou non, t'es complètement sorti, hein.
Oui. En fait, ça fait partie aussi du cheminement. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de mettre les choses derrière moi. Je vis pas dans le passé. C'est pas mon truc, en fait. C'est une aventure différente, en fait.
Très bien. Donc, je savais pas que t'as eu donc un cancer. Tu l'apprends alors que t'es encore CEO.
Une cicatrice.
Ouais. C'est un cancer de quoi, de...
Difficile à dire. C'est un truc entre la thyroïde et la carotide.
Hein. Ok. Très bien. Ouais. Comment tu vis ce moment-là? C'est un moment, ouais, bah compliqué, j'imagine. C'est pas simple.
Écoute, je vais être honnête, comme j'ai eu de la chance que c'était que l'opération a bien fait son job et que le traitement était très court, j'ai pas du tout vécu ça. Donc je me mets à la place de gens pour qui c'était plus difficile. Moi, je l'ai vécu. En fait, j'ai besoin de vivre les trucs intensément, même ces sujets-là. C'est, tu vois, je me suis vraiment mis dans cette peau, je suis pas clair là-dessus, mais tu vois, j'ai c'est horrible de dire, mais j'ai même plutôt apprécié ce moment. Je vais dire quoi, parce que quand t'es dans ta chambre d'hôpital avant l'opération ou après l'opération, tu sais, pour moi c'était un moment, parce que je savais que j'avais pas une issue fatale, parce que tu vois, évidemment je suis dans ce confort là évidemment pas la vérité pour tout le monde, malheureusement, mais, et donc tu vois, je voyais de ma fenêtre tout le monde s'activer, moi j'ai pris un temps de pause en fait. Ça m'a, je peux pas dire que ça m'a fait du bien, mais j'ai pas de mauvais souvenirs de ça, sincèrement.
Mais il y a une dimension quand même de rappel à l'ordre, de se dire parce que bon, tous ces trucs là il y a toujours une dimension, je sais pas si c'est une croyance, le cancer on se le fabrique parce que on travaille trop, parce qu'on n'a pas une hygiène de vie, parce qu'on est trop stressé, etc., et qu'il y a une forte dimension psycho aussi,
sûrement.
Mais c'est aussi un rappel à l'ordre, j'imagine, d'avoir une merde comme ça dans la vie, pour te dire bon, remettons aussi le curseur, parce que t'as été heureux tout le long sur Vestiarco quand même.
Oui, bon, les quelques mois de la fin, honnêtement, il y a des choses qui m'ont blessé, mais ils m'ont blessé par la suite en fait. C'est-à-dire, je trouve que la valeur à laquelle je fais le plus attention, c'est la loyauté. Tu vois, je trouve que parfois il y a eu une absence de loyauté qui m'a fait mal, hein, tu vois. Mais voilà, c'est des petits trucs très personnels. Voilà, je donne un coup de blesse un peu. Mais parce que, enfin, finalement, tu fais partie de l'histoire d'avant. Et que,
ben ouais.
Donc voilà, c'est très personnel. Encore une fois, j'ai pas de.
Ouais. T'avais envie de quoi alors après pour la suite?
J'avais envie de quoi? C'est une bonne question. Tu sais, je pense que quand t'as eu un truc aussi intense, je parle de vestiaire, potentiellement tu peux penser qu'il te faut peut-être plusieurs mois pour couper et puis réfléchir à la suite. En fait, moi, il m'a fallu quelques jours finalement. J'avais besoin de façonner et donc j'ai commencé à regarder le marché à nouveau, consumer, qu'est-ce qui m'intéresse, etc. J'ai rencontré plein d'acteurs du monde de l'hygiène et de l'entretien, parce que finalement quand tu prends le foyer, les usages qui sont à la fois des usages pas forcément très cohérents, qui sont, on parle de pollution d'intérieur ou de pollution d'extérieur avec les détergents, etc. Donc en fait, ça m'intéressait de regarder ce marché, de regarder ce qui était inspirant dans ce marché-là. Et j'ai commencé à creuser, à rencontrer plein de monde. Et je l'ai fait du coup avec mon cousin Yann Le Châtelier, en fait, à qui j'ai cofondé Agua Blanca. Et pour la petite anecdote, Yann a été un des premiers cofondateurs de Vestiaire.co aussi. Il en est parti pratiquement au début parce que il y avait un sujet d'alchimie ou d'entente avec d'autres. Et puis, comme c'est un type intelligent, il est parti. Pareil, ça, je trouve que ça fait partie, pardon, encore une fois, mais ça fait partie des profils qui sont à la fois créatifs et structurés. Pour moi, c'est assez rare d'avoir les deux, tu vois. Donc voilà, Agua Blanca, c'est né de cette envie en fait de transformer les usages du quotidien, ouais, avec les bons produits, etc., etc.
Ok. Et c'était ça a duré 3 ans cette aventure. C'est pareil. Est-ce qu'on peut faire les milestones? C'était quoi la valeur ajoutée que vous proposiez, en tout cas la proposition de valeur? Quelle était la vision derrière Agua Blanca et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que vous êtes monté une petite équipe d'une quinzaine de personnes, il me semble.
Ouais.
Vous avez pas loin de 3 millions, je crois, ou
un peu plus.
Raconte-moi toute cette aventure, j'ai envie de comprendre, parce qu'aujourd'hui, ça c'est terminé, ça s'est arrêté, et c'est intéressant de voir aussi pourquoi ça a foiré, en fait.
Alors, moi, j'ai eu les mêmes convictions qu'avec Vestiaire au début. C'est-à-dire, je voyais le modèle avec de la récurrence dans les usages. Enfin, encore une fois, une lessive, tu mets une capsule dans la machine, t'en fais 4 par semaine. Enfin, tu vois, donc tu vois le modèle fonctionner. Tu vois qu'il y a évidemment le contexte avec cette volonté de consommer un petit peu mieux et d'avoir des usages plus cohérents. Tu commences à regarder à screener les marques du marché. Tu vois qu'il y a globalement énormément de boîtes qui produisent des choses efficaces et inspirantes avec un prisme qui est le prisme de l'écologie.
Ouais, tu penses à qui?
Bah, tu vois, moi j'aime bien une boîte anglaise qui s'appelle Small, SMOL, qui fait des capsules lave-vaisselle. C'est-à-dire, cette boîte est un des déclencheurs chez moi d'Agua Blanca. Il y a des marques, une lessive qui s'appelle Peacock qui sent incroyablement bon, mais la texture est dingue et en même temps c'est d'une efficacité absolue. Il y a une petite maison qui s'appelle Félicité aussi et qui fait plutôt des produits cosmétiques, mais des produits cosmétiques accessibles avec des odeurs, des parfums qui sont super. Moi, je regarde toujours la texture et j'ai toujours été un psychopathe aussi, tu sais, des poussoirs. Parce que il y a rien de pire qu'un poussoir quand t'appuies et que le truc part trop vite ou trop lentement. Donc en fait,
je le prends dans les dents, ça c'est insupportable.
Ouais, c'est la combinaison de tout ça en fait qui fait que finalement. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que on se lance? On voit que surtout les verticaux, en tout cas de l'hygiène et de l'entretien pour la maison, le linge et le corps, en fait, il y a un potentiel qui est considérable et que il y a une consommation qui est très fragmentée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas soit toi supermarché en bas de chez toi, soit
c'est souvent ça quand même, hein.
Voilà. Et
j'en ai
tu
plus,
vas,
je
et c'est souvent
pas.
L'urgence et on voyait pas mal de marques qui se lançaient sur le modèle de souscription mais avec un produit ou deux produits, mais donc enfin pour moi c'est incohérent puisque
What Matter, etc.
Eux, ils ont une distribution physique aussi, ils ont toujours considéré que le beau était important aussi, donc ils font attention aux containers, etc., etc. Mais tu vois, je voyais pas de sens d'acheter ton papier toilette en souscription, tes couches en souscription, ta lessive en souscription, et que tout ça soit pas rassemblé en fait, puisqu'il s'agit d'usage du foyer. Et donc l'idée c'était d'avoir une curation en fait sur l'ensemble des produits du marché et de construire une offre qui soit cohérente, qui fasse du sens.
Et potentiellement en souscription aussi.
On a testé la souscription.
Ouais.
Mais c'est un modèle dans lequel on s'est très vite trouvé prisonnier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le driver de cette industrie, c'est aussi la nouveauté. Et donc, c'était assez drôle, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait les produits fondamentaux, c'est-à-dire les 5-6 produits fondamentaux du foyer. Puis ensuite, derrière, venaient se greffer, je sais pas, les bâtonnets de charbon que tu mets dans l'eau pour purifier l'eau. Les balles de lavage ou de séchage que tu mets dans la machine pour défroisser ton linge, ça va sécher plus vite, t'as plus besoin de le repasser. Enfin, ça c'est pour les gens feignants comme moi. Mais donc tu vois tous ces petits usages qui sont un peu ludiques et qui apporte.
C'est stylé, ça. Comment, c'est quoi le truc
Des balles de séchage.
Des balles de séchage,
ouais.
Ok.
Ouais.
Qui permettent d'éviter que ça soit froissé.
Ouais, exactement.
Incroyable.
Qui sèche plus vite, 30% plus vite, donc tu consommes moins, etc. Les filtres que tu mets derrière ta machine et qui prennent toutes les microparticules. Enfin, tous ces trucs qui font progresser les gens dans leurs usages. Dans un univers un peu inspirant, voilà, on avait une grosse curation, honnêtement, on testait les trucs dans tous les sens, mais il n'y avait pas de raison que ça marche pas, sincèrement, et pour être honnête, je relancerai un jour cette boîte en fait, parce que je pense que le phasing était peut-être pas le bon, peut-être que, mais oui, on a levé des fonds très vite, on a levé des fonds en pré-seed au moment de l'idée, tu vois.
Ouais.
Donc, on a levé 2,5 millions en pré-seed.
Ce qui est énorme.
Ce qui est assez énorme. Ouais, exactement. donc on a recruté l'équipe très vite, des gens qui l'avaient déjà fait. bon, voilà.
Et pourquoi ça foire alors?
Ben, en fait, pour moi, ça n'a pas foiré, ça s'est arrêté.
Ça s'est arrêté.
C'est pas pareil. On avait 47 000 clients récurrents. On est dans un modèle où, je pense qu'il y a ce contexte que moi j'ai pas su anticiper de vision du marché par les investisseurs. C'est les boîtes qui ont besoin d'être financées. Enfin, moi je suis désolé, mais je connais pas de licorne, pardon pour ce mot encore une fois extrêmement galvaudé, qui n'ait pas eu 10 millions sur son compte la première année. Enfin, je sais que c'est très, ça peut paraître très prétentieux ou je sais pas comment tu veux, mais si t'as besoin de changer les usages, il faut pouvoir le financer. Voilà. Et donc, toi, le marché est complètement pivoté. Moi, je l'ai pas anticipé. J'avais un peu trop confiance en moi, tu vois. Je pense sincèrement sur ma capacité à lever, etc. Et donc, ce retournement du marché du consumer, en fait, il nous a pété la figure, en fait. Et ça s'est fait en quelques mois. On n'a rien compris. Et donc, là où on commençait à construire vraiment le modèle, à savoir exactement quel était le modèle, on avait arrêté la souscription, on avait le bon catalogue, la bonne dynamique. On commençait à avoir énormément de récurrences. Les paniers, tu vois, c'est les produits qui sont en moyenne à 7,50€. On avait des paniers qui étaient à plus de 80€, en fait. Donc, on commençait à voir la génération de profitabilité. Il n'y avait pas la masse critique parce qu'on dépensait pas de marketing. On a fait un deal strat très vite avec Prisma, donc Vivendi, pour justement en se disant, mais on a peu de moyens marketing. Quel est le moyen de justement d'aller très très vite sur la grande conso? Donc on a fait un deal, on leur a donné de l'equity, ils nous ont donné du média, et quand on a plugué les tuyaux, ça a été phénoménal en fait, parce que Prisma sur le programmatique, c'est une boîte assez puissante.
C'est quoi Prisma? C'est quoi le programmatique?
Pardon. Donc Prisma Media, c'est une boîte qui regroupe des médias essentiellement de la presse, mais qui a fait sa transition sur le digital très très vite.
Okay.
Et le programmatique, c'est tout le display que tu peux voir sur les sites de la maison Prisma, qui on va dire s'affiche de manière intelligente en fonction du taux de clic, en fonction des taux de visite, en fonction du profiling des utilisateurs qui passent dessus, et qui du coup ont une logique d'affiner considérablement la conversion. Voilà. Donc voilà, on avait tout ce qu'il fallait, on n'a pas réussi à lever. Voilà,
et par curiosité, tu vas pas me le dire, mais tu donnes quoi à Prisma pour en échange de
pas.
Ça
Du capital.
Non, mais c'est beaucoup. C'est genre tu te
non. C'est très raisonnable. Comme un autre investisseur dans cette phase de vie de la boîte.
Okay.
Donc tu vois, c'est une pré-série A.
Mais d'ailleurs, c'est pour lever en seed autant d'argent. La capitalisation de la boîte sur un PowerPoint, c'est énorme, sinon.
La valo était peut-être un peu élevée au début.
Ouais.
Je pense que,
okay.
Encore une fois, cette culture-là, elle a évolué, mais on a levé sans problème.
Et ce genre de boîte, c'est impossible de les monter from scratch, en bootstrappé. Donc, avec zéro levée.
Ça dépend ce que tu veux faire dans la vie. Tu vois, c'est toujours pareil. Moi, je considère que le marché, c'est colossal, hein. C'est 45 milliards. Ça grossit.
En France.
En Europe. Ça grossit de manière organique. Ça s'est très peu digitalisé. Et la manière dont ça s'est digitalisé, c'est principalement par justement ce dont on parlait, des modèles de souscription, avec des gens qui ont des convictions très très fortes. Tu vois, je pense à Spring, par exemple, qui fait de la lessive en capsule, entre autres. Moi, tu vois, mais il y a pas mal d'innovations. La lessive en feuilles, par exemple, ça c'est génial. Et donc, tu vois, il y a une fragmentation du marché qui fait qu'il y a une opportunité pour moi qui est considérable. C'est croissance organique, taille de marché, besoin mondial. Il y a plein d'acteurs, tu vois, que tu peux agréger, qui sont des acteurs de la vie. Voilà, t'as des usages que tu peux faire changer, qui sont assez ludiques. Mmh. Donc, tu vois, tout est là. Donc, et l'inspiration, le beau aussi. Mmh. Voilà. Et le bénéfice pour moi, utilisateur, était là aussi. Voilà. Donc. Ouais, voilà, on n'a pas levé, on n'a jamais réussi à lever notre série A. On avait 40% qui était comité, mais on avait besoin de plus. Mmh. Voilà, donc on a tenu tant qu'on pouvait, mais à un moment donné, c'est des boîtes qui ont besoin de financer, même si tu divises ton cash burn par deux ou trois à la fin, ça sert pas à grand chose.
Mmh. Moi, j'aimerais bien changer de disque dur parfois. Parce que je pense que je fais partie de ces. Toi, je suis un peu plus jeune que toi, mais je suis un peu old school. En fait, je comprends pas ces boîtes comme ça ou qui ont besoin de lever autant d'argent. Moi, j'ai monté mon podcast. Je suis un petit entrepreneur, on va dire, ma petite marque, etc. Et je suis dans cet esprit de dire, bah en fait, il faut que ça soit profitable from day one pour que je puisse me verser un salaire, etc. Et je suis pas du tout dans cet esprit de dire. Je vais changer un marché, je vais devoir lever beaucoup de fonds et je serai pas rentable day one, mais peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans. J'ai vraiment du mal à conceptualiser le truc, tu vois. À chaque fois que je suis devant mon fichier Excel, il faut que ça soit positif en bas, tu vois, sinon ça marche pas. Je suis vraiment old school. Hein. Explique-moi, fais-moi une leçon simple pour changer mon disque dur parce que ça m'énerve.
Et pourquoi tu le changerais? C'est un bon disque dur. Tu vois, c'est le disque dur de Rissi, typiquement. Mmh. Dans la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, je pense qu'il y a pas de règle.
Non, mais c'est pas avoir le, pas changer de disque dur, mais en tout cas le comprendre et être capable de l'expliquer, quoi.
Moi, c'est les questions de masse critique, et d'ambition, globale, tu vois, rapide. Je pense que c'est ça. Et puis c'est culturel. Moi, encore une fois, je suis né un peu professionnellement dans ce contexte de boîte financée, donc du coup, tu vois, c'est moi qui devrais changer mon disque dur, tu vois. Mmh. C'est l'inverse, mais effectivement, si j'avais dû monter ma marque de lessive, tu vois, et pas plutôt la plateforme qui les agrège, j'aurais eu ta vision à toi, qui est celle de la construction dans le temps, de démontrer les choses, de passer les étapes les unes après les autres, mais de manière cohérente. Et c'est évident que la bottom line, elle est importante dans ce contexte-là. Mais encore, ça dépend des typologies de boîtes. Tu vois, quand tu fais WeWork, globalement, t'as besoin de cash, hein. C'est pas, tu vois, tu construis le supply et la demande, là encore. Hein. Donc, c'est pareil, ça a besoin d'être financé. C'est pas...
Très bien. Tu disais que tu investissais, t'es un investisseur. Mais dans quelle dimension?
J'ai arrêté.
C'est vrai? Ah ouais? Si tu veux pas qu'on te bombarder.
Non, en fait, honnêtement, je pense que c'est un profil. Je vais dire, et c'est assez drôle parce que je pense que peut-être qu'à la fin tu me demanderas une citation, et c'est assez drôle parce que je crois qu'un de tes anciens, des personnes que tu as interviewées il y a quelques temps déjà te l'a déjà dit, mais moi, toi, la notion de la culture avant l'argent, c'est vraiment. C'est vraiment important dans ma vie. Et du coup, je sais plus ce que tu me disais comme question parce que je mets pas.
Non, mais donc t'arrêtes d'investir. Mais en fait, moi, là où je voulais en venir, c'était c'est quoi ta thèse d'investissement et qu'est-ce que tu regardes dans une boîte pour mettre des sous et mettre de l'argent, quoi.
Et voilà. Et donc, moi, ce que je regarde, c'est le fondateur.
Ouais.
Je dois avoir le coup de cœur. Et j'ai souvent le coup de cœur pour le fondateur, mais du coup je passe pas assez de temps sur le modèle et je m'en fous, voilà. Mais du coup c'est clair que 2022-2023 n'ont pas été des bonnes années pour moi parce que j'ai investi dans une dizaine de boîtes et je pense qu'il y en a 8 qui sont parties au tapis. Des boîtes qui, pour des raisons encore une fois d'absence de financement. C'est parce que j'ai un peu toujours la même lecture.
Okay.
Je suis pas un bon investisseur.
T'as toujours investi dans des boîtes qui allaient changer le monde, quoi. Enfin, qui allaient changer en tout cas la façon de consommer.
En fait, j'ai besoin d'investir dans des boîtes. En tout cas, j'ai besoin d'être proche de gens qui ont une conscience écologique ou je trouve pas le bon mot, j'ai pas envie d'employer les mots galvaudés à tour de mais j'ai besoin d'avoir du sens en fait dans ce que je fais. Je suis incapable de monter un business, par exemple je pourrais pas monter un business en SaaS parce que c'est pas ma culture et c'est le consommateur qui m'intéresse. Encore une fois, je sais que c'est pas à la mode. Mmh. Quand j'ai investi essentiellement sur les gens parce que je les aimais. Voilà. Mmh. Je trouve très intéressant aussi de refaire le toit de l'église de son village, de recréer une dynamique, tu vois, de collectivité. J'ai aussi financé des vignes dans le Trièves parce que, mais bon, c'est vraiment, c'est le coup de cœur qui m'anime et pas tellement le. Ce que ça va devenir à la fin, je sais que c'est du luxe de dire ça, mais je l'ai bien senti passer là cette année.
Ça picote un peu, ouais.
Ça picote.
On va arrêter les conneries. Mais c'est marrant quand même parce que j'ai l'impression que t'as quand même un côté assez pragmatique et extrêmement ambitieux dans tes boîtes avec Vestiaire, Aquablanca, et on va le voir avec Chrissy sans doute. Enfin, même si c'est pas ta boîte, t'es Sherman, tu disais, mais t'es CEO depuis 3 mois, mais c'est pas non plus ta boîte. Mais t'as quand même ce côté très pragmatique dans tes boîtes et dans tes investissements beaucoup moins, quoi. Ça paraît bizarre.
Je crois pas être pragmatique, hein, sincèrement. Je pense que non. Et je suis toujours très bien accompagné, vraiment. Enfin, j'ai une bonne intuition, sincèrement. Tu vois, ça, je pense que si on, et c'est pas tellement moi qui devrais le dire, mais je pense que quand on se connaît bien, moi, je sais ce qui fonctionne bien avec moi. Tu vois, j'ai toujours besoin d'un binôme. Et par exemple, chez Agua, avec Yann, on avait une chief of staff qui était une machine et qui arrivait à comprendre ce que j'avais dans la tête avant même que je puisse. Moi, je sais pas très bien communiquer en fait. Et donc, du coup, parfois, je trouve que les choses sont évidentes, elles le sont pas forcément pour les autres. Donc d'avoir quelqu'un qui soit capable de sentir cette sensibilité-là, de la retraduire très très vite, et ça c'est assez critique pour moi dans mes aventures entrepreneuriales. Mais j'ai toujours eu.
C'est quoi ta zone de génie, toi? C'est quoi ton truc?
Génie, je pense pas, mais non, je pense que j'ai de l'intuition sur les modèles. C'est-à-dire, je pense que je peux être un peu en avance de phase sur les usages, ce genre de choses. J'arrive bien à modéliser. C'est la modélisation, c'est un peu mon truc. C'est toujours difficile de parler de soi comme ça. Je sais pas. Faut que tu demandes. Peut-être que tu l'as fait d'ailleurs déjà, non, c'est ça. Je modélise bien.
Tu modélises bien.
Ouais.
Et comment on modélise bien alors?
En ayant de l'intuition.
Ouais.
Et en la retraduisant dans.
Mais ça veut dire quoi modéliser? T'es bon à faire des tableaux Excel et à mettre des chiffres?
Ah, c'est horrible ce que tu dis.
Ouais. Pardon. Non, mais je suis assez terre à terre. Ça veut dire quoi modéliser?
Ça veut dire comprendre la dynamique. Et comprendre la dynamique d'une boîte et comprendre les étapes nécessaires pour cette dynamique, être capable de s'adapter en fait très vite à des situations qui sont des situations complexes, d'absence de cash ou tout d'un coup d'un usage qui serait pas celui qu'on a dessiné au début. Donc par exemple, si dans une boîte t'as beaucoup de, je sais pas, de primo acheteurs et que t'as pas de repeat, qu'est-ce qu'il faut faire complètement? Et voilà, donc moi j'arrive bien à anticiper ce genre de choses.
Et tu sais quoi faire? Tu sais l'anticiper, mais tu
je sais après, l'anticiper,
tu
mais
tu sais t'entourer des bonnes personnes quand même.
C'est un peu ça aussi, c'est d'avoir les bonnes personnes. Ouais.
Et comment on trouve les bonnes personnes?
Moi, tu sais que je passe peut-être 20 ou 25% de mon temps à rencontrer des gens, en fait. Et je l'ai toujours fait. Mais parce qu'en fait, c'est ça qui fait que tout d'un coup, t'as le déclic, tout d'un coup, les choses te viennent aussi, tout d'un coup, tu rencontres la bonne personne qui va te présenter une autre personne. J'ai cette crainte-là, en fait. Ouais. J'ai cette crainte du vide. C'est-à-dire de tout d'un coup me retrouver démuni, en fait, de la bonne équipe. Parce qu'en fait, ça peut te mettre une boîte au tapis, en fait, tout simplement. C'est l'absence de ressources ou d'avoir les bonnes ressources. Ça, c'est un.
Oui. Voilà. C'est-à-dire que dans ta tête, ce qui se passe, c'est que tu vois les challenges arriver. Et tu fais en sorte de mettre en route la machine pour rencontrer un maximum de gens. Je sais pas, t'as des sujets d'acquisition ou tes sujets de... Peu importe les sujets, mais en tout cas, tu vas aller rencontrer les personnes qui pourraient potentiellement t'aider. Tu vas tous les rencontrer et à un moment donné, tu vas avoir le déclic, tu vas comprendre et tu vas pouvoir appuyer sur le bon bouton pour pouvoir régler ton problème qui arrive dans 6 mois ou dans 1 an, quoi.
Ouais, au-delà de ça, c'est avec une vision plus hélicoptère, c'est-à-dire de bien comprendre... bien comprendre un univers de consommation, par exemple, tu vois, ça, c'est, et donc de rencontrer tous les acteurs de cet univers avant de prendre des décisions. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait avec Agua Blanca. Ça, c'est, on a rencontré des industriels, on a rencontré des distributeurs, des marques, des DNVB. Et donc, du coup, ça me permet de naviguer, de comprendre, en fait, potentiellement, où est-ce qu'on doit appuyer. Et comment ça doit se séquencer, tu vois, c'est plus ça en fait.
Et ça dure combien de temps d'ailleurs à Agua Blanca, le moment où de préparation
est... Un an.
En
fait, on aurait pu aller beaucoup plus vite, et tu vois, ça s'est été aussi, mais il y a eu le Covid en fait, et sur les produits d'hygiène et d'entretien, finalement, quand les usines sont fermées, donc tu peux pas avoir ton catalogue.
Bien sûr. Ouais.
Mais on est passé à travers ça, mais comme beaucoup de gens. Hein.
Rissi, alors, explique-nous cette aventure, comment ça se passe, pourquoi tu décides de rejoindre plutôt que de lancer un autre business en tant que fondateur. C'est quoi Rissi déjà?
Rissi, c'est un acteur de la seconde main, en fait, qui a la particularité d'avoir tous les produits en stock avant qu'ils soient vendus. Donc c'est ce qu'on appelle un business de consignment.
Okay.
Ça permet plein de choses aujourd'hui. Hein. Si je le reprends un tout petit peu à l'envers, je les connais depuis longtemps, les fondatrices Sabrina et Sophia, qui sont américaines toutes les deux.
Basées à
Paris pour Sophia et à Londres pour Sabrina. Et en fait, les premières fois que je les ai rencontrées dans mon bureau de vestiaire, elles vont détester que je dise ça, mais honnêtement, j'étais subjugué par les personnes, mais j'étais pas subjugué par le modèle, parce qu'encore une fois, à l'époque, on était dans cette logique de top line. Plus t'as de produits, plus t'es light, plus tu fais de la croissance rapide, etc. Donc d'avoir deux personnes qui viennent m'expliquer qu'il faut avoir une sélection avec toi, une vision en profondeur de ce qui s'est passé depuis 40 ans pour remonter les bonnes pièces, etc. J'étais un peu dubitatif, je comprenais, parce que je crois qu'à l'époque on avait Condé Nast déjà au capital de vestiaire, donc on commençait à me donner un peu quelques drivers, à m'insuffler un peu de notions de style et de mode. J'en suis encore un peu loin, mais en tout cas, voilà, je les ai rencontrés, j'étais là, ok, c'était intéressant, j'adorais les fondatrices, c'est vraiment deux personnes incroyables. Difficile de pas tomber amoureux, en fait, de ce qu'elles ont construit aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai aimé, honnêtement, on a toujours resté en contact, c'est que elles sont volontairement sorties du bois de la seconde main. C'est-à-dire que elles se sentaient à la fois pas armées, et à la fois, elles étaient très à l'aise avec le modèle qui consistait à avoir le plus beau stock du monde à la fin et de le vendre. Voilà, elles en vivent très bien, etc., etc. Sauf que c'est un marché, je crois que tu as 1,5 trillion de produits de luxe disponibles sur le marché de la seconde main. Ça grossit 4 fois plus vite que le marché primaire. Ça fait 12% de croissance organique. Donc à la fin, Rissi est happé complètement par ce marché, en fait. Et donc elles ont besoin de se structurer. Tu vois, c'est là où moi j'interviens. C'est que elles ont une capacité de sourcing qui est considérable, avec les bons produits. Et tu vois, si tu regardes bien, en fait, et c'est là où toute l'incohérence pour moi de la mode, hein, on sort des collections tous les ans, plusieurs fois par an, etc. À chaque fois, on t'explique que c'est incroyable, etc. Mais il faut surtout les oublier vite, en fait, pour passer à la suivante. Voilà, c'est un peu la thèse de base. Mais donc, la réalité, ça veut dire que quand tu regardes ce marché de manière verticale, tu te rends compte que dans les années 60, les années 50, les années 70, 80, 90, etc., t'as à chaque fois des pièces incroyables que tu peux refaire vivre de manière moderne. Et donc, c'est le principe de Rissi, c'est pas être dans la saison, pas être comme toutes les autres acteurs de la mode, être dans les années justes après le in-season, tu vois. Mais elles sont récitées un peu dans ces catégories-là, mais elles vont chercher beaucoup plus loin aussi, à chaque fois, le bon designer, la bonne collection, la bonne année, etc. Et elles remontent ces pièces et elles horizontalisent tout ça. Tout est shooté sur mannequin, tout est évidemment confié ici. Et donc, du coup, ça nous prémunit aussi d'avoir ta pièce qui est visible sur toutes les autres plateformes, parce que finalement ça sécurise la pièce ici. Et donc voilà, et moi je suis là depuis quelques mois maintenant. Et donc mon job à moi, c'est de on va dire, d'accompagner la vision des fondatrices qu'il faut surtout pas changer, mais avec les bons outils de back-end qui font que, y a pas de marketing, par exemple, y a pas de CRM, y a pas de, tu vois, y a pas de RP, y a pas d'outils qui te permettent de...
Ça s'est fait au bouche-oreille depuis Day One.
Ouais, et ça fait 100% de croissance tous les ans.
Grâce, et là, donc là, c'est vraiment un truc qui est drivé par l'offre, le produit.
Oui, sauf que là, elle se retrouve vraiment dans un truc où, tu vois, il faut 3 semaines pour mettre un produit en ligne. Aujourd'hui, tellement il y en a en amont et tellement le tuyau est trop petit, tu vois. Donc mon job à moi, c'est d'essayer de fluidifier tout ça, de moderniser un peu tout le back-end pour qu'elle puisse s'exprimer totalement. Et c'est passionnant d'être là. Voilà. Et le déclencheur d'avoir rejoint full time, en fait, parce que j'étais déjà administrateur de la boîte, c'est la rencontre avec l'équipe.
Parce que vous êtes combien aujourd'hui?
19. Mais c'est une maison de mode, tu vois. Pour moi, c'est une maison de mode. C'est-à-dire que t'as pas de finance, t'as pas de tech, t'as pas de marketing, t'as pas de data analyst. Et en fait, t'as que des gens qui viennent de la mode et qui sont sur le produit. Donc en fait, ça te donne une culture qui est assez impressionnante. Mais du coup, tu vois, on greffe avec des ressources externes qu'on prend de temps en temps en freelance, etc. Mais ça marche pas. Donc, tu vois, l'idée, c'est d'avoir les ressources qui permettent à l'équipe core de d'avancer.
De s'exprimer.
Exactement. Ouais.
D'accord.
Mais c'est une boîte qui est profitable. Day One, tu vois, on en parlait tout à l'heure, qui a un très gros tech rate, mais parce que...
C'est quoi un tech rate?
C'est le plus gros panier moyen du marché, tu vois. C'est 1 400 € de panier moyen.
Ah ouais.
Et le panier augmente de 20% dans le temps.
Mais comment elles ont construit ça?
Réseau, passion. Enfin, toi, tout est documenté. Moi, c'est aussi ça. Tu vas sur une fiche produit, tu regardes. Enfin, il y a une notion de
mode, ouais.
D'archives, tu vois. C'est il y a une histoire sur chaque produit. C'est contrôlé, authentifié, évidemment. Ça c'est le béaba. Non, elles ont construit ça vraiment. Et puis, tu sais, je pense que une des différences, c'est qu'elles se focalisent beaucoup. Je dis elles ont, pardon, parce que je devrais dire on, mais l'équipe, en tout cas, se focalise beaucoup sur les vendeuses et moins sur les produits. Donc, nous, on part du principe qu'il vaut mieux avoir les bonnes vendeuses et avoir une vision de l'accompagnement du service qui soit tellement parfait que à la fin il y a une récurrence, tu vois. Je peux te dire, il y a à peu près les vendeuses, les top vendeuses, elles déposent en moyenne 50 produits par an, enfin, tu vois, et la moyenne, je crois que c'est 14 par an. Donc en fait, il y a une fidélité des cohortes, pardon, pour ce mot, mais de
juste aussi, c'est quoi une cohorte pour
c'est qui, un groupe, ça, voilà, ouais. C'est un groupe, si on parle de cohorte de vendeuses, par exemple, la cohorte de 2023, c'est toutes les vendeuses qui se sont inscrites en 2023, qui ont déposé un produit à la vente pour la première fois en 2023. Donc ça, c'est la cohorte de 2023. Donc quand on reprend les cohortes historiques, eh ben, on se rend compte que celles qui sont inscrites en 2018 continuent, pour 60% d'entre elles à vendre sur ici. Donc il y a une fidélité qui est phénoménale. Hein. Et ça, c'est des fondamentaux de business qui sont très intéressants à travailler parce que ta commission est élevée, ta grosse margin, du coup, est élevée, tu peux travailler, du coup, ton marketing, ton produit, la mise en scène du produit. Tu peux te permettre de shipper 60% de tes produits vers les US, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que tous ces coûts-là sont absorbés, en fait, par à la fois le panier et à la fois la commission qui nous permet, nous, de faire tout ça. Ouais.
Très bien. Juste aussi pour revenir sur ta grille de lecture, toi, quand t'investissais ou en tout cas quand tu regardes un business, c'est quoi une bonne marge brute?
Alors, ça dépend des business.
Ouais, ça dépend des business. Non, mais c'est marrant parce que je parlais récemment au CEO de Experience Capital et lui disait, voilà, ben, peu importe le business où on est, il faut qu'on soit entre 70 et 80% de marge brute.
Je pense que dans la seconde main, c'est totalement impossible. Je crois que ce qui est intéressant, c'est la contribution. En fait, on regarde toujours le catalogue de manière quelle est la contribution du catalogue à la totalité du business. Donc, on sait qu'il y a des produits qui vont faire la top line, et on sait qu'il y a des produits qui vont faire toute la marge. On sait, par exemple, que il y a des marques qui vont faire énormément de volume chez nous, Il y a énormément d'interactions sociales autour de ces marques et donc ça nous amène du trafic organique. Donc ça, c'est, tu vois, c'est de la croissance indirecte. Mm-hmm. Mais c'est pas sur ces marques-là forcément qu'on va faire le plus de marge. Donc en fait, tu vois, c'est comment tu construis ton catalogue pour que chaque marque, chaque produit, chaque catégorie contribue à l'ensemble. Et c'est cet équilibre-là qui est difficile à, tu vois, à construire. C'est pour ça que la data est critique et que ça a été mon premier chantier ici. Hein. C'est justement de remettre le business en cohorte avec cette lecture.
Et comment puis, tu t'y prends là? Tu recrutes des analystes
Bah, j'ai mes fidèles.
Ouais. Ouais. Qui vont chercher la data dans le site et essayent de mettre ça dans des tableaux, quoi.
Oui, ça un peu plus. Et on bosse avec une boîte appelée Byron Analytics, qui est d'ailleurs un ex de Clipperton qui nous accompagnait avec Vestiaire et qui a monté sa boîte de data. Mais donc, du coup, il comprend à la fois le retail et la data et les mécaniques de pure player, etc. Donc, il a une vision qui me permet d'aller vite, en fait. Mm.
À partir de quand il faut s'entourer de data analysts?
Pour moi, si on n'a pas ces notions dès le début, ça dépend de son business. Ouais. Tu vois, moi, mon rêve, c'est d'avoir une usine de ravioles dans la Drôme à la fin. Donc, toi, ma femme va m'en vouloir d'avoir dit ça. donc là, je suis pas certain d'avoir besoin d'un data analyst, encore que si jamais tu fais du surgelé, que tu bon bref. Ouais. Mais non, je pense que très vite, il faut avoir une vision analytique de son business. Je pense que c'est assez important. Ouais.
C'est ce que tu conseilles aux gens, toi, qui viennent te poser des questions. Il faut s'entourer de qui, de quoi il faut aller chercher.
Il y a plein de boîtes en fait qui font. S'il y a pas les ressources internes, moi je trouve que c'est un truc qui me passionne. Donc j'aime bien mettre le nez dedans. Mais oui, il faut s'entourer. Et typiquement dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi, c'est souvent l'absence de compréhension du moteur en fait. Il fait que les boîtes crament du cash ou n'avancent pas. Mmh.
Elles comprennent pas leur business. En fait,
elles savent pas où appuyer. Qu'est-ce qui flanche en fait? Si jamais tu vois que ton chiffre d'affaires ou ta GMV dans le cas des places de marché est pas celle que t'attendais, globalement, est-ce que c'est les new, les repeaters? Est-ce que c'est ton panier qui baisse? Est-ce que tout d'un coup t'as une cohorte qui est cassée? Est-ce que c'est ton trafic organique? Est-ce que tu vois, est-ce que tu n'as plus, parce que tu vois, typiquement avec Vestiaire, à un moment donné, quand on a ouvert les US, ça a été tellement puissant qu'on a séché le catalogue européen parce que les Américaines achetaient les produits en Europe. Et donc, du coup, tu vois, si ça, tu l'anticipes pas, bah, tu fais plus du tout de croissance en Europe. Donc, tu vois, c'est pouvoir anticiper. Moi, c'est simplement ce confort-là, en fait, qui est assez important.
Ouais. Hyper intéressant. Mmh. OK. Ouais, mais en fait, je pense que toutes les boîtes qui foirent, c'est à cause de ça. C'est qu'elles ont pas cette dimension analytique, quoi. Enfin, la plupart. Beaucoup.
Et c'est ultra accessible maintenant, franchement. Mmh. Tu vois, c'est, faut pas voir ça comme un.
Ouais. Bon, je te demanderai des conseils en off.
Cool.
C'est quoi le potentiel de Rissi pour toi?
Il est phénoménal. En fait, tu vois, sur le créneau du. En fait, je trouve que pour moi, Rissi, c'est de la mode. C'est pas un pur player, tu vois, qui a l'œil sur le supply et qui est donc en fait sur l'angle de la mode et la compréhension en fait de la durée de vie d'un produit dans le temps et d'avoir le bon produit et je vois pas tellement d'acteurs en fait, pour être honnête, pour bien connaître le marché, hein, sincèrement. Soit t'as des gens qui sont très spécialisés, sacs, accessoires, etc., qui se diversifient un peu sur le vêtement. Rissi, on est d'abord sur le vêtement. C'est ça qui est vraiment drôle. C'est 50% de nos transactions aujourd'hui.
Versus l'accessoire.
Et donc c'est un peu dangereux le vêtement parce que il y a des problèmes de taille, etc., etc. Souvent il y a des retours. Voilà, il se trouve juste que le travail des documentations est tellement bon chez nous que je crois qu'on a plus bas taux de retour du marché avec 6,5% de produits. Donc voilà, c'est d'abord la culture du vêtement et ensuite viennent se greffer évidemment les accessoires, la joaillerie qui est assez récente chez nous parce que finalement quand tu t'adresses à une vendeuse, tu vas pas lui dire je vais juste prendre t'es top et je vais pas prendre le reste. Voilà. Donc la vision d'une marque de mode qui adresse le marché secondaire en étant le miroir du marché primaire, je le vois pas tellement, tu vois. Je pense que toi t'as les acteurs de la tech, soit, mais du coup on essaye vraiment de construire ça, de se dire ok, si on était tu vois, avec les mêmes codes que le marché primaire, comment ça devrait se retraduire sur le marché secondaire. Et donc je pense qu'il y a un boulevard, sincèrement le marché est tellement considérable, enfin tu c'est sans fin en fait.
Et là, les groupes de luxe, ils s'intéressent pas au sujet parce que c'est un manque à gagner qui est énorme pour eux.
Alors ils s'y intéressent beaucoup. D'ailleurs, enfin c'est évidemment accessible au public. C'est l'information qui est partagée. Mais Kering est au capital de Vestiaire. Et puis je pense qu'on a eu des discussions dès le début avec les groupes de luxe. Et avec Vestiaire, avec Ricci, c'est plutôt les groupes de luxe qui viennent nous voir d'ailleurs.
Et Ricci, vous avez fait des levées de fonds avec Ricci ou pas encore?
On a fait un tour de Business Angel avec des gens qui sont plutôt des gens de l'art, etc., qui sont pas du tout, qui sont d'ailleurs, je crois, pour la plupart américains. Et on va commencer à y réfléchir, pour être honnête, parce que à un moment donné. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas aller plus vite non, écoute, moi je suis pas à la place des maisons de luxe. Je trouve qu'il y a beaucoup de culture dans les maisons de luxe. Je trouve que c'est vraiment intéressant, en fait. Il y a une approche culturelle du produit, il y a une notion d'héritage aussi dans les maisons. En fait, c'est quel angle t'intéresse sur le marché secondaire, tu vois. C'est ça qu'il faut. Est-ce que tu as une approche en silo, tu dis bah finalement j'ai plein de produits de ma marque que je vends en neuf, à la fin si je veux avoir une vision verticale, je dois proposer mes produits en seconde main parce que j'ai une qualité de collection et il n'y a pas de raison que ça. Mais à la fin, c'est pas la manière dont le particulier fonctionne. C'est pas parce que tu as un top Céline que tu vends, que tu veux racheter du Céline, ou c'est pas parce que, tu vois. Et donc cette approche qui est silotée, moi j'y crois pas trop, pour être honnête, parce que c'est un peu contre nature à mon avis. Donc après tu peux te dire ok, c'est la data qui m'intéresse, je peux comprendre les usages et donc aussi comprendre la vraie valeur des produits dans le temps. C'est je le vends 2000 en neuf, il se vend trois fois sur le marché secondaire. La vraie valeur, c'est peut-être 5000 et pas 2000, tu vois. Donc tout ça, c'est intéressant à adresser par la data. Je sais pas si ça intéresse les marques de luxe en l'occurrence, mais c'est un des angles. Et après tu peux le prendre par l'angle du service. J'ai un client, je le mets au centre. Ce client, il a des produits qu'il a achetés, c'est un acheteur de produits neufs, et il a aussi des produits à vendre. Enfin, il n'y a pas de raison que je l'accompagne pas. Donc, tu vois, il y a plein de moyens, à mon avis, qui sont les moyens intelligents de collaborer à un moment donné. Après, je pense que je suis pas certain que ces maisons aient pour l'instant absolument besoin de se positionner.
Leur business primaire est tellement énorme que...
Oui, tu vois, mais bon, voilà, ce qui est important, c'est de respecter en tout cas ce qu'ils ont construit sur le marché primaire. Ça, moi, je m'y attache, et l'équipe ici aussi.
Très bien. Toi, c'est une aventure qui va t'emmener très loin, tu penses? Enfin, en tout cas, tu l'espères.
Je sais pas. Écoute, pour l'instant, ça me passionne d'être là, ouais. Et tu sais, de voir ce marché avec un œil et une taille de business un peu différente, et je trouve que c'est assez passionnant d'adresser le marché un peu, encore une fois, avec un angle différent. Ouais. Et tu vois, je le vois, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Fubber, qui est le vestiaire collectif basé en Géorgie, tu vois, Géorgie, Ukraine, Russie. Bon, évidemment, le contexte est difficile, mais tu vois que les problématiques sont les mêmes partout, en fait. Et c'est ça qui est assez drôle. Donc, tu vois, moi, j'ai un peu cette vision mondiale, en fait, du business. Et je vois qu'il y a à la fois une logique de convergence, en fait. Il va y avoir des build-up, à mon avis, dans pas trop longtemps.
C'est quoi des build-up?
Des rapprochements, entre boîtes, entre marchés, entre... Alors, on a toujours regardé, investir, c'était vraiment un truc à l'époque. Et là, il n'y a pas de raison qu'on regarde pas non plus à un moment donné, tu vois.
Très bien. Parce qu'aujourd'hui, le marché, c'est Europe-US pour ici.
Récit, c'est marrant parce que c'est international depuis le premier jour. Et c'est aussi parce que les fondatrices ont cette patte, en fait. C'est 60% d'acheteuses aux US. Et tu vois, ça aussi, c'est... Pour moi, c'est un de mes chantiers. C'est de mettre aussi une partie des acheteuses US en face des vendeuses US parce que... Il n'y a pas de raison d'avoir ce qu'on appelle le CPO, le cost per order, qui soit aussi élevé, toi, à shipper des produits depuis l'Europe vers les US. Enfin, pour moi, c'est un peu, pas que c'est un non-sens, mais il faut l'optimiser. Voilà. On a vu une vision plus sustainable, en fait, de la transaction.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de supply, enfin, en tout cas, d'offres qui viennent d'Europe et qui est shippée aux US. En plus, tout passe ici, dans ce showroom. Hein.
Non, on a...
Vous avez une plateforme, quand même.
Oui, on a une zone de stockage qui est pas très loin d'ici. Où tous les produits sont stockés. Pour le coup, ça, c'était très bien fait.
Il y a quand même des bons points, ouais, bien sûr.
Il y a plein de
bons points. Non. Ouais. Et la marque est forte, la marque est cool. Ouais,
et puis, c'est un diamant brut, en fait. C'est fou, en fait. Moi, j'adore cette idée-là. C'est, dès qu'on touche quelque chose, toi, t'as un impact immédiat... Sur la croissance, sur la transaction, c'est vraiment sympa de vivre ça.
Trop bien. Écoute, on a fait un bon tour, non? C'est déjà. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est toi qui me dis.
Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder, qu'on n'a pas forcément abordé? Je regarde mes petites notes. T'avais envie de parler de quoi?
Non, écoute, je pense que on a fait le tour, hein, c'est bien. C'est bien, non?
Ouais, non. Moi, j'aime bien parler de tendances du marché. Qu'est-ce que tu ressens, toi, pour la suite sur le marché consumer? Parce que toi, t'es quand même très consumer. Enfin, c'est ce qui te fait kiffer. J'ai le sentiment. Enfin, en tout cas, c'est a priori les deux trois boîtes dans lesquelles t'as créé ou bosser avec, c'est très consumer. C'est quoi le futur du consumer? On est toujours en croissance, en hyper-croissance. La crise du pouvoir d'achat en ce moment, c'est des business qui la ressentent pas parce que c'est des gens qui achètent ce genre de produits qui ne sont pas encore impactés quoi, par la crise du pouvoir d'achat.
Oui, mais tu vois, je trouve que... Ce que font pas mal de business et nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est avoir la possibilité d'avoir des paiements fragmentés. Ça, c'est idiot, mais ça, c'est la nouvelle norme. Tu vois, ouais. C'est vraiment, je crois que 70% des transactions aux US, c'est en paiement fragmenté. C'est devenu culturel. C'est-à-dire que le paiement est devenu un produit à part entière sur ton site. Donc, décorréler le catalogue du paiement. Moi, c'est vraiment un truc aussi smart. J'aime bien d'ailleurs ce que fait Vinted sur ce sujet-là, de se dire que les services doivent être parfaits, le shipping doit être parfait, le paiement doit être parfait, et c'est ça qui crée en fait la récurrence à la fin. Je trouve ça super malin. J'ai entendu un podcast il y a pas longtemps là-dessus. Écoute, c'est difficile de te répondre là-dessus. De l'avenir du consumer, j'en sais rien, on sera toujours là. Tu vois, moi je suis un peu de la vieille génération, pour être franc. Je vois bien la pertinence de l'intelligence artificielle, mais enfin, pour moi, on en parle beaucoup maintenant, mais c'est enfin, ça progresse maintenant, ça émerge maintenant.
Mais ça fait des années que c'est là.
Voilà, ça fait des années que c'est là. Il y a une accélération qui est très forte. Je vois bien la contribution dans plein de domaines. Je trouve que ça, c'est assez passionnant. Moi, j'ai un peu je trouve qu'on a un peu démissionné sur l'humain, tu vois. Je me dis, nous on va se cantonner, faire des petits emojis et tu vois, je trouve que il y a un petit peu un renoncement. C'est un peu plus, tu vois, ce débat est plus philosophique finalement. Il y a pas de remise en question, c'est une pertinence absolue en fait. Mais je trouve que où est la place de l'humain? Moi, je sais pas. Je trouve qu'on a renoncé. Voilà, et ça me fait un peu peur pour être franc. Donc, le consommateur, à la fin, pour le remettre au centre, qu'est-ce qui va le faire? Tu vois, je vois des technologies aujourd'hui arriver avec des sites qui te présentent toi totalement en vidéo en train de porter les freins qui sont sur le site, en fait. Pour te mettre dans le contexte. Mais,
Je sais pas quoi penser de tout ça, toi, pour être honnête. Je...
Vous utilisez des trucs comme ça, vous,
non,
ou vous essayez de mettre en place?
Non, non, en fait, on teste, on regarde des technologies LLM pour, tu vois, pour lister les produits à partir des photos, globalement. Et c'est franchement assez bluffant. C'est à te dire, tu fais une photo du sac, même avec des angles usés, etc., etc. T'es capable de retranscrire sur une fiche produit 80% du produit parce que il a été historisé, donc du coup on est capable de dire exactement de quel sac il s'agit, quelle dimension, quelle couleur, quel code couleur, qu'il est usé à droite, à gauche, etc., etc. En revanche, il n'y a pas d'émotion émotionnelle, on est sur la valeur cognitive en fait de l'humain, mais on n'est pas sur l'émotionnel, et ça, du coup, ça veut dire que de toute façon, il faudra une couche humaine, et celle-là, moi, j'y tiens absolument. Mmh. Vraiment. Mais ça, c'est très intéressant, ça te fait gagner un temps fou sur le listing. Ouais. Alors, bien sûr, on regarde ça avec intérêt.
Bien sûr. Tout à l'heure, tu parlais de services assez incroyables avec les vendeuses, les acheteuses. Qu'est-ce que vous faites de particulier?
Tout. Ils font rien, en fait. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a une couche. Il y avait une étude. Je crois que c'est Crédit Suisse qui a fait une étude là-dessus. T'as 100 millions de clientes dans le monde qui sont potentiellement nos clientes, acheteuses ou vendeuses. Je te garantis qu'il y a une grande partie de ces personnes qui n'ont absolument pas envie de prendre une photo avec leur téléphone pour mettre un sac en ligne. Et donc, d'arriver chez elles, de prendre l'ensemble des produits, de lister, de garantir, de prendre les photos, de faire un full service, de garantir, tu vois, une commission élevée, une rétrocession élevée, pour les vendeuses. Et puis de s'occuper dans le temps en fait de la vendeuse, de shipper le produit partout dans le monde, etc. Je pense qu'elle n'a pas de prix en fait, sincèrement. Et puis tu vois, je crois qu'il y a aussi cette fierté, et le mot est probablement excessif, mais moi quand je vois la taille du marché aujourd'hui, et c'est mon œil de vendeur ou d'utilisateur en fait des places de marché, je me dis parfois mon produit est mis en scène sur un site à côté d'autres produits qui me ressemblent pas du tout, ni une marque que j'aime. Et donc, tu vois, je trouve que cette dimension de la cohérence, de la consistance de à la fois du sourcing, mais en même temps de la consistance de l'affichage sur le site, c'est primordial pour moi. Et donc, je crois que les vendeuses, elles sont aussi sensibles au travail qu'on a fait sur le produit, le fait que, encore une fois, tout est shooté sur mannequin, on a contextualisé, on a documenté, et que, sur le site, ton produit n'est pas noyé dans une masse de produits incohérents, mais que tu es à côté d'autres produits ou d'autres marques qui sont très cohérentes par rapport à ton produit. Je pense que ça, c'est vraiment important aussi. Mmh. En tout cas, j'y crois beaucoup. Nous, ça nous aide à faire beaucoup de conversions. Ouais.
Si tu pouvais recommencer un truc dans ta carrière, tu changerais quelque chose?
J'essaierais de faire des efforts d'intégration, en fait. Tu vois, j'ai toujours je suis pas un animal social du tout, j'ai toujours refusé tous les, mais parce que c'est ma nature, je j'ai jamais fait partie d'aucun organisme, je pense que j'ai raté cette dimension un peu politique qui accompagne en fait les boîtes qui ont des dynamiques un peu élevées. Et je l'ai pas fait par méchanceté, mais je l'ai fait parce que j'étais incapable de me comporter dans un univers.
Quoi, t'es mal à l'aise ou ça te fait chier? C'est quoi?
C'est pas moi. Je te dis, je pense que fondamentalement, je suis un solitaire. J'ai du mal à faire partie d'un groupe en fait, qui soit pas celui que moi j'ai défini. Ok. Être honnête.
Voilà. Très bien.
Donc ça, je le changerai. Ouais.
Ouais. Très bien. Les plus gros échecs. Enfin, est-ce que tu as vécu tu vois, la fin d'Aqua Blanca, la fin de Vestiaire, etc. Comment tu vis ces fins? Alors, tout à l'heure, je disais que c'était pas des échecs, c'est des pauses et puis c'est des histoires qui se terminent. Mais comment tu vis ces moments-là et comment est-ce que tu pourrais mieux les vivre?
Non, mais en fait, tu vois, Vestiaire, ça m'a impacté, évidemment, parce que encore une fois, c'est des tripes. Hein. Donc, je crois que tu vois, là, à la fois vestiaire, à la fois Guablanca, je te l'ai dit un peu tout à l'heure, mais moi, j'ai été plus blessé par l'effet de halo que ça a eu que par l'acte lui-même. Tu vois, typiquement. Sur Agua Blanca, j'ai frappé à un moment donné aux portes de gens qui, sur mes expériences précédentes, en fait, que j'avais soit enrichi considérablement, soit ouvert la porte à des moments où c'était pas évident pour eux, etc. Tu vois, et quand tu frappes à la porte, pas pour financer ta boîte, mais pour dire, écoute, j'ai besoin d'aide là, et que finalement. Ça se passe pas. Tu vois, moi, je suis blessé par ça, en fait, parce que pour moi, encore une fois, la loyauté, c'est un truc très important. Mais c'est que moi, je juge personne. Hein. Je dis juste que ça a un effet considérable. Tu vois, t'as 2 mois de cash dans ta boîte. Tu sais que t'as un fonds qui a fait un multiple considérable sur ta boîte précédente. Bon, tu vois, te dire d'avoir un nom un peu, ou alors qu'on te mette dans les pattes de l'analyste. Alors que, tu vois, ça c'est des trucs qui me blessent vraiment. Je me dis merde quand même. Enfin,
t'as pas de mémoire.
Mémoire ou loyauté ou professionnalisme, ouais. Parce qu'à la fin, t'as une thèse d'investissement et que tu n'en déroges pas. Mais moi, c'est pas ma façon de faire les choses. Tu vois, c'est juste ça. C'est moi et ma culture et les autres et leur culture. Et je pense que c'est pas vrai partout. Mais tu vois, cette absence de loyauté, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu pour Agua parce que cette boîte, elle aurait mérité
d'exister. De continuer. Ouais. Elle reviendra.
Oui, tu vois, c'est ce que tu disais. Pour moi, c'est des échecs. Voilà, si tu veux. Mais je vois pas, pour moi, c'est pas la fin d'Agua Blanca, c'est une étape. Et tu vois, ce qui est dur, j'ai tellement cru à Agua Blanca que j'ai rassemblé autour de moi aussi des amis et des gens que j'aimais profondément. Ma mère, je leur ai dit, mais vas-y, mais on avait des drivers qui étaient tellement évidents. Je leur ai dit, mais vas-y, investis parce que, toi, on va refaire vestiaire, en fait, à la fin, toi, de voir quelques mois après dire à ces gens-là,
en fait, ça a merdé.
Ouais, ça c'était.
Ça c'est le plus dur, je trouve. Non, c'est quand
pour moi, c'est le plus dur.
Quand t'embarques plein de gens avec toi.
Ouais. Oui, parce que tu vois, je cherchais pas spécialement de l'argent en fait. C'est même ça, c'est à dire.
Oui, c'était pour donner un coup de main.
Il y a des gens qui ont mis toutes leurs économies en l'occurrence.
Ouais.
Tu vois, il faut assumer ça. Ça c'est pas évident. Hein.
Voilà. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? C'est la question de la fin. Pour transmettre le relais, t'aimerais bien entendre qui sur son parcours, sa vie entrepreneuriale?
Je sais que t'en as interviewé quelques-uns, mais tu vois, moi j'aimerais bien avoir la vision d'un investisseur un peu emblématique. Tu vois, moi je pense à Frédéric Cour de Félix Capital, que je pense qu'a investi dans tous les business les plus incroyables du monde. Je crois que ça fait plusieurs fois qu'il est investisseur de l'année. Ce type est, moi, je suis admiratif, en fait. Il a toujours gardé sa ligne. Et, bon, tu vois, il a aussi investi dans Farfetch assez tôt. Mais tu vois, typiquement, José Neves aussi, c'est quelqu'un que j'aimerais bien entendre. Parce que, pour moi, ce type est un génie. Et tu vois, comprendre comment t'es aussi haut, et puis tout d'un coup, il se passe ce qui se passe. Et tu vois, c'est des histoires que j'aime bien. Et après, à titre plus personnel, tu vois, le fondateur de la Blogothèque, tu vois, typiquement, je sais pas si tu connais, mais moi, j'adore la contextualisation de la musique, en l'occurrence. Je trouve que ce type est un génie. Hein. Et j'aimerais bien l'entendre sur sa vision, en fait, de pourquoi il est resté toujours aussi aligné, et parfois.
Très bien. Parfait. Merci infiniment. Voilà. J'espère que ça t'a plu.
Merci.
Et que ça plaira à nos auditeurs. Salut Sébastien. À bientôt.
Salut. Bye. Ciao.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.